Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, notre invité est nul autre que Jacques Michel, et oui, Jacques Michel, si vous ne savez pas c'est qui, c'est un vrai pionnier de la musique francophone, oui, dans la francophonie. C'est lui qui a écrit la chanson... Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. C'est lui qui écrit ça, cette chanson-là, tu sais. Fait que c'est un vétéran de la musique québécoise. Il a commencé dans les années 60. Fait qu'il nous parle beaucoup de c'était quoi la musique, faire de la musique, être musicien, être chanteur dans ces années-là. Il a parlé des concours qu'il a gagné. En même temps, lui a aussi vécu la crise d'octobre. Fait qu'on parle beaucoup aussi d'histoire du Québec, la fierté d'être québécois. Fait qu'on parle essentiellement pas mal de tout ça. Puis c'est ça, l'histoire du Québec, la musique... comment il a commencé, c'était quoi faire de la tournée dans ces années-là, tu sais. Et bref, fait que ça a été vraiment un gros plaisir de recevoir Jacques Michel sur le podcast. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast, juste vous rappeler tout le monde, si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va me permettre de justement pouvoir continuer ça. C'est ma seule source de financement. C'est pas cher, il y a plein de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres. C'est pas grand-chose pour vous autres puis pour moi. Ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, il y a un podcast avec Mathieu Bock-Côté, Guillaume Dulude, André Gélina. Et j'enregistre demain avec Wally, le sniper qui revient sur le podcast. Fait que bref, ça vous permet de tout pouvoir voir ça d'avance. Pas besoin d'attendre qu'il sorte en ordre chronologique. Si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Tout support est apprécié. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein? Laissez un petit thumbs up. Cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Laissez un commentaire dans les algorithmes. Laissez un commentaire pour pouvoir m'aider avec les algorithmes. Écrivez. Si vous avez écouté le podcast au complet, vous avez aimé ça. Écrivez. Vétéran. Écrivez vétéran dans les commentaires parce que Jacques Michel, c'est un vrai vétéran de la musique québécoise. Ça a vraiment été un plaisir de le recevoir sur le podcast. J'ai beaucoup aimé sa sympathie. T'sais, il est vraiment sympathique, le gars. C'était vraiment le fun de le recevoir sur le podcast. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex de Voice, Faux le graveur laser, Marc-Antoine Laflamme, Mickaël Pomerleau, Monsieur Camaro, Méo et son gros pieu Vistec et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à Jacques Michel, gros merci à tous ceux qui me suivent, membres Patreon, tous ceux qui écoutent mon contenu. Et on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité. Il a marqué l'histoire de la musique de la francophonie. Il y a plus de 200 compositions, dont 30 qui ont fait partie du top du palmarès de 1965 à 2005. Je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast. Jacques Michel, ça va bien?
Ça va bien, merci. Je suis très heureux d'être ici en ta compagnie, Jer.
Ben ouais, tu me dis que j'étais super sympathique en rentrant.
Oui.
Je te retourne le compliment.
Ah ben merci beaucoup. Je l'accepte.
Ah ouais?
Hein, les critiques négatives sont tellement faciles quand un compliment arrive.
Ouais.
C'est toujours bien de le recevoir.
Ben c'est ça. Puis là, ouais. Je voyais bien en te parlant, en te jasant, tu sais, depuis que t'es rentré chez nous, je suis comme, Chris, va falloir que je me grouille à commencer le podcast, mais si tu commençais déjà
déjà me parlé de plein d'affaires.
Bon. Oui, mais moi, il faut me surveiller. J'ai une grande gueule, ça fait que tu me la fermes de temps en temps.
OK,
si
parfait,
j'exagère.
C'est un bon deal, c'est un bon deal.
OK.
Tu sais, pour ceux qui ne te replacent pas, dans le fond, moi, de comment je t'ai reconnu, c'est que c'est toi, l'auteur, compositeur, interprète de la chanson Frappé.
Pas besoin de frapper
oui,
pour entrer.
Oui, pas besoin de frapper pour entrer. Puis, hey man, cette toune-là, là, tabarnak, mon père chantait ça, c'était le matin pour se lever. Ouais. Pas besoin
oui,
de frapper pour rentrer chez moi.
Ouais. Ouais. Ah, ouais. 1972.
OK, c'est là que tu l'as sorti. Ça, comment tu vois ça, que cette chanson-là a traversé les générations?
Ah, c'est une maudite bonne chose. Je ne devrais pas dire maudit, d'ailleurs. C'est une sacrée bonne chose.
Ah oui, c'est ça.
Parce que ça la garde vivante. Alors moi, tu sais, l'auteur ou l'interprète d'une œuvre finit par lever les pattes. Mais l'œuvre reste. Et j'ai la chance de voir des générations plus jeunes que moi reprendre de mes chansons. Alors ça assure la pérennité de la chanson. La chanson continue de vivre.
Mm-hmm.
Et ça c'est super. Et elle, non seulement la chanson continue de vivre parce qu'elle est interprétée, mais elle rejoint un autre public que moi je ne rejoindrais pas si je la réenregistrais, par exemple.
Mm-hmm.
Ok, que Sylvain Cossette ait repris cette chanson, ben lui, il avait une génération plus jeune qui le suivait, qui écoutait ce qu'il faisait. Alors cette génération là en même temps que Sylvain Cossette, s'est approprié ma chanson. Et ça, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, parce qu'une œuvre, après qu'elle ait été écrite, après qu'elle ait été mise en public, sur un support quelconque, que ce soit un disque ou peu importe, l'œuvre n'appartient plus à son auteur. L'œuvre, je ne parle pas pour les redevances de droit d'auteur, par exemple, mais l'œuvre appartient au public.
Ouais.
Le public en fait ce qu'il veut. Le public lui donne la signification qu'il veut aussi, parce que la signification d'une chanson dépend de celui qui l'écoute.
Mm-hmm.
La signification que je lui donne, moi, ça concerne juste moi.
Fait que la chanson devient plus grand que toi-même, dans le fond.
Oui.
C'est ça. Oui. Fait que c'est un beau cadeau, ça.
Ça, c'est un sacré beau cadeau. Surtout quand on sait comment cette chanson-là est venue. Ah, c'est vraiment... Oui, c'est drôle parce que...
C'est quoi l'histoire, justement, derrière cette...
La plupart des chansons ont leur petite histoire. Je faisais retaper, restaurer une vieille maison en Estrie que je venais d'acquérir. Okay? Il n'y avait pas longtemps. Je l'avais acquise en 1971,
Combien t'avais payé pour le fun?
Pas cher. Vraiment pas
avec
cher.
Avec le prix des maisons aujourd'hui, je suis curieux de voir.
Je peux pas te faire ces confidences-là. Et donc, à un moment donné...
Genre 13 pièces.
On change. Il faut que je te dise que mon père, il faisait des transactions aussi.
OK.
C'est grâce à mon père que j'ai fait une bonne affaire.
OK.
Parce que moi, j'étais prêt à acheter tout de suite au prix qu'on demandait. Puis mon père, il m'a écrasé le pied. J'étais à côté de lui.
Il a fait comme ça.
Ouais. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, pendant la restauration de la maison, on a changé la porte en avant. On a enlevé la vieille porte. Et là, je regarde la maison et je dis, hein? Plus besoin de frapper pour entrer. Et c'est comme ça que le titre de la chanson m'est venu, pas besoin de frapper pour entrer. Le titre de l'album, c'était aussi pas besoin de frapper. Alors, on a repeint cette vieille porte. On l'a amené dans un champ avec tous les participants à cet album, les musiciens, les gens qui s'occupaient de la promotion et tout ça. Et on a fait une photo. Et c'est cette photo qu'on retrouve sur la pochette de l'album qui était « Pas besoin de frapper ». Et la chanson, c'était « Pas besoin de frapper pour entrer ».
Ben ouais,
tout ça à cause d'une porte manquante.
Ben ouais, puis en même temps, c'est ça, tu voulais promouvoir, je sais pas, l'amour, tu sais, parce que...
Ben, on est à l'époque des communes à ce moment-là, hein?
Okay.
Alors, la photo dans le champ, tout le monde croyait que Jacques Michel vivait en commune. Et Jacques Michel, pas du tout. Jacques Michel, il est... c'est un marginal. Moi, je suis un Lone Ranger. Je vis
un
pas
long
en
wolf.
Gang. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Je suis doux comme un agneau, mais avec des mâchoires de loup.
OK.
Ouais.
Fait que c'est ça, cette chanson-là, c'est ça, tu dois être content justement que même encore aujourd'hui,
oui,
tu sais,
très content.
Est encore, ben, elle fait partie de l'histoire du Québec, là, de la musique.
Oui, puis elle fait partie du panthéon de la chanson canadienne aussi.
OK.
Oui.
OK.
Celle-là.
Okay.
Ouais. Ouais. Pas toutes mes chansons, mais ouais, celle-là. Ouais.
Ben, c'est quand même déjà de
oui,
toi.
Oui,
juste
tout
ça,
à fait.
Puis là, toi, dans ton fond, ton premier album que tu as fait, parce qu'avant, tu faisais partie des petits groupes.
Oui.
Puis le premier album que tu as fait, il y avait la chanson Fume ta marijuana.
Ah,
ou,
c'est même pas le premier, ça attend un peu. Un, deux, ça, c'est mon troisième album. Oui,
troisième
il y avait
album.
Fume ta marijuana là-dessus, effectivement.
Okay.
T'imagines?
Puis c'était. Tu sais, aujourd'hui...
Moi, j'en avais pas fumé, là, rien de ça.
Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est drôle d'entendre ça, mais dans les années 60, dire ça, tu sais, j'imagine... C'est ça, dans une époque qui est un peu plus puritain, j'imagine, tu sais.
Tu veux une anecdote là-dessus?
Ouais, ben oui, on est là pour ouais, ça.
Écoute,
de la chante... l'exclusif, là.
OK, oui. Je la chante à jeunesse d'aujourd'hui. On fait du lip-sync, hein? Ils font tourner le disque, puis toi, tu fais semblant que tu la chantes devant
okay.
la caméra.
Ouais.
Puis tout le monde me dit après, il n'y avait pas de son. J'ai commencé à chanter « Fume, fume, fume ta marijuana ». Et M. L'Herbier, qui était directeur de la station à l'époque, il a entendu ça. Il a tout de suite appelé au poste et dit « Vous coupez le son
ah. ».
Alors, ils m'ont vu chanter tout le long, mais ils n'ont jamais rien entendu.
Ah ouais?
Oui, 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 oui. ouais. Mais encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui découvrent ça. Cette chanson-là sur YouTube, elle a été reprise aussi par un groupe dans le bout d'Ottawa
okay.
qui mettait des trucs en ligne sur YouTube.
Okay.
Et ils l'ont repris avec un nouvel arrangement. C'était super. J'ai trouvé ça super.
Okay.
Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Deux gars qui faisaient ça ensemble.
Okay. C'est plus
super.
Genre du rap ou...
Non, elle était chantée, mais, okay. mais c'est tout le visuel avec qui était intéressant aussi.
OK.
Ouais, ouais,
ouais. Moi, j'imagine comment que ça a été reçu, ça, à cette époque-là.
Écoute, je le sais pas. J'étais même pas populaire à cette époque-là.
OK.
T'sais, j'ai écrit ça, moi, en revenant de New York. Un jour, j'ai un de mes chums qui me dit, « Jean, t'as l'Expo Universelle qui s'en vient, là.
Mm-hmm. »
L'Expo Universelle à Montréal, c'était 67, ça, je crois.
Ouais.
Il dit, « Écoute, moi, j'ai une amie qui demeure à New York, qui est la blonde de Robbie Robertson, qui vient de mourir il y a quelques semaines seulement, qui était le chef de l'orchestre de band qui accompagnait Bob Dylan.
OK.
Alors, elle fait des entrevues aussi pour un journal de Montréal, qui était le petit journal, je crois,
okay.
qui s'appelait à l'époque. Et j'ai un de mes amis, moi, qui s'occupait un petit peu de ma carrière ici, qui essayait de faire des trucs pour moi, puis il avait dit, on va aller à New York. On va rencontrer Albert Grossman, qui est le gérant de Bob Dylan. Puis je vais essayer de te faire une tournée avec Bob Dylan en première. Toi, tu seras en première partie, puis ça serait pour promouvoir l'Expo Universelle.
Okay.
Je me dis, hey, c'est le fun à rêver. Hein? Mais moi, j'y croyais pas trop, mais j'étais jamais allé à New York, alors... J'ai payé son billet d'avion, j'ai payé le mien, puis j'ai payé le billet d'avion du photographe aussi qui nous accompagnait là-bas.
Okay.
Et mon ami a rencontré Albert Grossman. Mais il a dit que ça pourrait être possible. Et c'est à ce moment-là que Bob Dylan a eu son accident de moto puis qu'il a cessé de faire de la tournée pendant un bout de temps. Mais moi, j'aime croire qu'il aurait pu dire oui, mais je pense que ça aurait été la fin de ma carrière. Ça n'aurait pas été le début. Et donc, j'habitais à l'hôtel Chelsea à New York, qui est un hôtel où plein de gens vivaient à l'époque, du milieu artistique, du théâtre, de la danse, de tout. Cohen, Leonard Cohen, Janis Joplin, enfin, plein de monde, OK? Et ça fumait là-dedans, mon homme. T'as pas idée, c'est pas juste des cigarettes, tu comprends?
Mm-hmm.
Mais j'écoutais tout ce monde-là parler. Ça va te sembler niaiseux, là, ce que je vais dire, mais moi, je pensais que quand t'avais tiré un joint, là, tu disais juste des conneries. T'étais pas là, t'étais niaiseux, t'étais d'un vape, t'étais... Mm-hmm. Puis là, je m'apercevais que tout ce monde-là est articulé quand même. Ouais. Et c'est quand je suis revenu, c'est là que j'ai écrit « Fume ta marijuana si ça te fait du bien, bon, ta, ta, ta. » Mm-hmm. Et New York, j'étais là dans le smog tout le temps que j'étais là. Et c'est pour ça que je dis dedans, on t'a défendu le soleil, qu'on t'a caché par des gratte-ciels. Puis c'est normal que tu le cherches ailleurs, le soleil, tu comprends? Alors, ça se résume à ça, à peu près. Voilà. Mais c'est sûr que... Ça n'a pas été reçu aussi facilement que quand Justin Trudeau a fait changer la voix là-dessus.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que ça n'avait pas, pas eu de couverture ou à rien de ça, cette chanson-là. T'étais pas assez connu à l'époque, c'est ce
que j'étais
tu,
pas très connu. Bien sûr que la radio la tournait pas, la chanson, hein. Ça, non. C'est sûr. Oh. Quand j'ai, des années plus tard, quand j'ai fait mon disque « Dieu ne se mange plus, il se fume », ouais. Alors ça, ça a eu de l'impact, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Écoute, c'est en 66 que j'ai enregistré, je pense, « Fume ta marijuana ».
Puis je parlais avec Vincent, je pense.
Oui,
Vincent.
Oui.
Puis il me disait justement qu'il trouvait qu'on avait des compatibilités ensemble. Tu sais, c'est que t'sais, moi, j'ai pas de gérant, j'ai pas de producteur, j'ai tout le temps... J'ai jamais attendu que le téléphone sonne avant de faire mes affaires, tu sais. Uh-huh. Puis il disait que toi aussi, c'est pas mal ça que tu faisais, tu sais.
Ah, moi, oui.
Tu t'occupais toi-même de tes affaires, puis...
De tout! Je louais la place des arts, moi.
Ouais?
Je produisais mes disques, mais au début, j'avais pas l'argent pour ça. Moi, tiens, je vais commencer par le début. Quand j'ai commencé à chanter dans les cabarets, à faire du spectacle, mm-hmm. pas à faire de la musique avec un groupe, là, mais à faire du spectacle...
ouais.
Pour avoir une bonne qualité de spectacle, je trouvais qu'il fallait avoir ses propres musiciens. Moi, quand je faisais un geste sur scène comme ça, je voulais entendre « tac » à la batterie.
Mm-hmm.
Alors, t'as beau dire ça à un bon batteur, il connaît pas ta toune, t'es pas connu, mm-hmm. il n'y arrivera pas pour le faire en même temps. Alors, j'avais trois musiciens et je les payais 52 semaines par année. Travaille, travaille pas. Mm-hmm. Moi, je m'endettais... pour payer des musiciens, pour offrir une bonne qualité de spectacle. Et mes premières apparitions dans les cabarets, quand je passais une première fois, il n'y avait pas de monde, je n'étais pas connu. Mm-hmm. Mais les gens qui venaient aimaient ça, et les propriétaires de cabarets voyaient mon sérieux. On ne faisait pas juste faire le spectacle le soir. Moi, là, je les payais, les gars, on allait répéter à chaque après-midi.
Mm-hmm.
Et ça a été comme ça pendant des années. C'est là que j'ai vu l'importance de prendre mes choses en main moi-même. Après, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire sérieusement des chansons, je me suis occupé des droits d'auteur, des redevances de droits d'auteur. Et c'était payant, c'était payant. 2 cents par côté de disque, 45 tours que tu vendais quand tu détenais tous les droits.
Mmh.
Alors, je me suis dit, être l'auteur, ça me donnera un quart de scène. Le compositeur, un autre quart de scène, ce qui fait une demi. Là, je me suis dit, il faut que je sois éditeur si je veux avoir l'autre scène.
Mmh.
Alors, je me suis fondé une compagnie d'édition. Après, j'ai eu une compagnie de production et c'est comme ça que j'ai commencé à produire mes disques, produire mes spectacles. Puis, je n'étais pas un gars de gagne. Je te disais tantôt, Lone Ranger,
ouais.
Et des amis dans le milieu, là, j'en ai un qui est vraiment resté, un excellent ami, c'est Gilles Valiquette.
Quand je te parlais de comment tu as commencé,
oui.
Puis c'est parce que je me demandais aussi, tu sais, c'est l'époque où ce que, tu sais, les grosses boîtes en menaient large, là, tu sais,
oui.
C'est que...
Oui.
Fait que, tu sais, si tu voulais faire tes affaires par toi-même, ça devait être difficile dans ce temps-là. T'sais.
Oui, c'était difficile parce que tout le monde faisait des versions à l'époque.
Qu'est-ce que ça veut dire, des versions de...
De chansons anglaises ou de chansons américaines. Okay. Ils traduisaient ça en français. Le succès était assuré. C'était déjà un succès dans une autre langue.
Puis c'était bien vu, ça,
de c'était passer. Bien vu à l'époque. Et moi, on me disait, hey, pourquoi t'enregistrais? Pourquoi on aurait deux de tes chansons sur un 45 tours?
Mm-hmm.
Regarde, tu vas faire une version, puis une de tes compositions. J'ai toujours dit, non, je vais arriver nulle part comme ça. Moi, je dois m'imposer.
Mm-hmm.
Puis j'étais pas, je peux pas dire que j'étais excellent là, dans mes premières chansons. Moi, le métier, je l'ai appris sur le plancher des vaches, comme
ah,
on
ouais,
dit, tu comprends?
Ça, c'est
je l'ai, oui, je l'ai comme ça, en travaillant, alors... En travaillant, je prenais des musiques d'auteurs, compositeurs français et je mettais un autre texte sur cette musique-là. Ou bien je prenais un de leurs textes puis j'essayais de mettre une autre musique là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire.
OK, ça, c'est pour justement apprendre.
Oui,
puis...
oui.
Puis c'était comment, tu sais, comment les artistes étaient traités par ces grosses boîtes-là, tu sais, c'était... Parce qu'on dirait, l'idée que j'ai, c'est qu'il y avait bien du monde qui abusait ou qui profitait, justement.
Oui, 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 il y en avait.
Fait que ça ressemblait à quoi, ça?
Moi, je me rappelle une fois, je suis allé voir quelqu'un que je nommerai pas encore, parce que, puis ça, c'était avant que j'enregistre, mais je voulais enregistrer. Alors que je faisais des démarches, je suis allé voir quelqu'un qui était producteur, qui écrivait aussi des chansons, et je lui ai demandé un contrat. Pas un contrat que j'avais signé, je voulais lire ses contrats. Mm-hmm. Et quand j'ai lu le contrat, j'ai dit non, moi je signe pas ça. Non, ouais. Finalement, je signais pas ça. Et un jour, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Roger Miron. C'est un gars qui faisait du country. C'est celui qui chantait à qui le petit cœur après 9h, si ça te dit quelque chose. Mais mm-hmm. t'es trop jeune pour ça, toi. Mais... Lui, il a dit tout de suite, j'étais avec... C'est Ben Kay qui avait fait les démarches pour moi. Ben Kay était le gérant des Classelles à l'époque.
OK.
Et il a dit, oui, moi, je veux l'enregistrer. Donc, j'ai enregistré 6 chansons pour lui. 3 45 tours. Puis quand mm-hmm. on avait 5 45 tours, il faisait un long jeu. On appelait ça un long jeu, un album mm-hmm. avec. Mais sauf qu'après 6 chansons, j'ai signé avec une autre compagnie après, avec Fantastique. C'était Jacques Mathy. C'était une petite compagnie à lui. Il était associé avec Barclay. Donc, je ne suis pas encore dans des grosses compagnies. Mais le troisième album, avec Fume ta marijuana, là, mes chansons commencent à avoir du corps. OK? Okay? Puis je commence à
avoir une petite notoriété.
Ah, puis oui, puis je commence à avoir une critique sociale, politique. OK? Il y a tout ça. Et je me rappelle que le directeur artistique de l'époque, il aimait pas bien ben ça, avoir Fume ta marijuana sur cet album-là. Mais moi, j'y tenais. Mm-hmm. Puis j'avais un contrat avec eux. Ça fait que... Mais là, j'étais pas encore producteur. C'est pas moi là, qui payais pour ça. J'étais pas producteur. C'était Apex. Il y a une chanson qui a pas mal tourné là-dessus qui s'appelait Les mauvais garçons. Mais ça a pas fait de succès encore. Okay. Après, je suis allé voir Yvan Dufresne, qui avait la compagnie Jupiter. C'était l'ancien directeur artistique chez Apex. Mm-hmm. Et avec Yvan, là, tout a commencé à débloquer.
OK, c'est là que ça a commencé.
Ouais.
Oui. Alors, fait que toi, dans le fond, ça a été pas mal progressif. Ça a
très
pas été...
progressif.
Ça n'a pas été du jour au lendemain, oh, là, avec une toune.
Non, attends un peu. 1, 2, 3, 4. Au cinquième album, j'ai eu mon premier succès. Qui était « Je reviendrai te chercher sur un dinosaure ». C'est une chanson fantaisiste, alors que je suis pas fantaisiste, dans laquelle je raconte à une fille « Ah, arrête de pleurer, là. Je m'en vais pas pour tout le temps. Je vais aller chercher un dinosaure quelque part, puis je vais revenir te chercher. T'sais. Puis je vais penser à toi pendant tout ce temps. » C'est tout ça. Mais la mimique que j'avais quand je faisais cette chanson-là est tellement ridicule. Ouais. La chanson, c'est une bonne chanson fantaisiste. Mais la mimique, parce que j'avais engagé un comédien de théâtre pour me monter une mise en scène là-dessus. Puis lui, ce qu'il m'avait fait faire, ben, il dit, c'est comme si t'étais un Lone Ranger sur son cheval, au lieu d'être juste un Lone Ranger, tu comprends? Tu lui donnes des coups de cravache de temps en temps, puis tu galopes. Les enfants imitaient ça. Ça, c'était mon premier grand succès.
OK. Puis c'est quoi, ça a pogné chez les enfants? Ou...
Chez tout le monde. Hey, okay, écoute, okay. Encore dimanche, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est mis à me la chanter. Okay. Ça a été vraiment un succès. Mais moi, j'avais dit à Yvan Dufresne, à cette époque-là, là, j'avais déjà 2 succès d'écrits pour le groupe Les Lutins. J'avais écrit « Monsieur le robot ». Et à cette époque-là, là, 125 000 copies d'un 45 tours, c'était des disques vendus en maudit. C'était beaucoup. Et après « Monsieur le robot », j'avais écrit « Roquet belles oreilles ». Ça avait vendu 100 000, un peu moins, mais c'était 2 grands succès. Okay. Et là, je faisais rire de moi.
Puis les gens... belles oreilles, pas à RBO?
Non. Mais il y avait un comique qui passait à la télévision, là, dessin animé, là, okay, Rock et belles oreilles.
Oui, oui,
ouais, okay, j'étais parti c'est ça, pour autres, écrire une histoire, vous avez mis une musique là-dessus.
Okay.
Et là, les gens disaient, hey, t'es drôle, toi, t'écris des hits pour les autres, puis t'es pas capable de t'en écrire.
Mm-hmm.
Alors, j'avais dit à Yvan Dufresne, Yvan, j'écris 2 chansons. Je vais écrire 2 chansons. Là. On enregistre la première. Si ça marche pas, j'enregistre la deuxième. Si ça marche pas, je chante plus. Je vais écrire juste pour les autres. Et la première que j'ai enregistrée, ça a été « Je reviendrai te chercher sur un dinosaure », qui a connu un grand succès. Et tout de suite après, je suis revenu à mon style à moi. J'ai écrit « À cause d'une fleur ». C'est sorti en 68, je crois. J'ai gagné 2 prix avec ça au Festival du disque canadien, que ça s'appelait à l'époque. C'était pas encore les Félix. Et après ça, j'ai continué à écrire du Jacques Michel.
Puis c'est là que tu as commencé à avoir de la notoriété.
Ah oui, parce qu'il y a eu « À cause d'une fleur », il y a eu « Ta mère et moi », ça a été un succès. Il y a eu « L'enfant noir », ça a été un succès. Il y a eu « Les requins », qui est une chanson engagée en maudit. À RR de Les requins. Les requins ne sont pas toujours au creux des mers, comme on croit.
Okay. C'est une chanson qui dénonçait quoi, ça?
Ah, les requins de la finance.
Ouais. Fait que Wall Street, ces affaires-là.
Oui. Et après ça, il y a eu Amène-toi chez nous.
Ouais.
En Belgique.
Oh, et ça, ça a pogné à maudit. Mais avant qu'on aille là, tu sais, ça me fait penser à. Tu sais, genre, tu dénonces justement Wall Street, le capitaliste, tout ça. Puis, mais comment t'étais? T'étais-tu un hippie quand t'étais plus jeune?
Ah, hippie? Ah, ouais. Non, pas du tout.
Pas hippie?
Non. Moi, je suis...
Juste engagé socialement?
Oui, engagé socialement. Et puis ensuite, je suis un... Comment on appelle ça? Donc, un gars qui s'occupe de ses affaires. Il fallait que je vive. Ouais. À un moment donné, j'étais marié. Et à cette époque-là, on était encore le pourvoyeur, les hommes, pour la femme. Pas parce que ma femme n'aurait pas pu travailler, parce qu'elle était architecte décoratrice, pas juste décoratrice, là, architecte décoratrice. Mm-hmm. C'était ça le cours qui se donnait à l'époque. Mais moi, je préférais qu'elle travaille avec moi. C'est elle qui faisait mes éclairages, qui concevait mes éclairages, qui était régisseur sur scène, qui s'occupait de tenir les livres, la comptabilité, tout ça. On travaillait en équipe, on travaillait
ensemble. C'était-tu bien vu, ça, à cette époque-là? Mais... Ou il y en a qui regardaient ça d'un autre...
Non, âge. C'était bien vu. Et puis, en plus, on parlait de Vincent tout à l'heure, puis j'ai dit mon gérant parce que c'est comme ça que ça se dit aujourd'hui. Mais moi, là, j'en ai jamais eu de gérant. Moi, j'avais engagé un secrétaire. La différence entre un secrétaire et un gérant, c'est que le gérant, il dit quoi faire, mais le secrétaire, c'est toi qui lui dis quoi faire.
Oui, ça, c'est un assistant...
C'est ça. Alors lui, il était payé 52 semaines par année aussi. Il rentrait au bureau tous les matins, puis il faisait le travail qu'il avait à faire. Puis quand on était en tournée, c'est lui qui m'accompagnait. Puis bien souvent, c'est lui qui s'occupait du booking des tournées, c'est-à-dire programmer là, les dates et tout ça. C'est lui qui faisait ça.
Tiens, justement, les tournées, je me demande, ça ressemblait à quoi faire de la tournée durant les années 60, 70?
Mes premières vraies tournées, j'ai fait ça avec un groupe qui s'appelait les Jades, qui était... des sacrés bons musiciens. Des gens qui venaient de Rouen. Il y avait 2 musiciens qui venaient de Rouen-Noranda, mon pays d'enfance, et un qui venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, j'avais fait une tournée avec eux, mais dans des cabarets. Okay? Après, dans des cabarets, dans certaines salles qui n'étaient pas des cabarets aussi, c'est vrai. Okay. Et après, les premières vraies tournées que j'ai faites, c'est à compter de 1971. En 70, quand je suis revenu de Spa, en Belgique, Guy Latraverse m'a demandé de faire la Place des Arts et j'ai dit « Guy, j'apprécie énormément que tu me demandes ça, mais je suis pas prêt. J'ai pas assez de matériel. Je vais être obligé de chanter des chansons des autres. » Et là, je viens de gagner un prix qui est extrêmement important. Je peux pas me permettre d'arriver avec des chansons connues qui ont été écrites ou interprétées par d'autres. Je vais faire la Place des Arts quand j'aurai tout le matériel pour être capable d'avoir un bon spectacle qui dure 1h30 de temps.
Ouais, qui rend justice, ouais, puis ouais, qui rend valeur.
Oui, et ça a commencé en 1971, les tournées. On voyageait en Winnebago ou des trucs comme ça, selon les distances où on allait. Là. Ouais. Puis j'ai fait dans les Maritimes, l'île du Prince-Édouard, j'ai fait la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, je suis allé en Ontario.
T'as-tu des anecdotes de tournée, ça ressemblait à quoi? Ça virait-tu des grosses brosses ou c'était assez tranquille?
Ah non, moi, je prenais pratiquement pas d'alcool. Les gars fumaient avant le show. Ça, j'haïssais ça. Je disais, fumez après le show, les gars. Parce que quand on arrivait sur scène, sur le high, là, pendant 20 minutes à peu près, tout allait bien. Puis là, il commençait à s'amortir. Puis là, on partait un rythme. Tac, 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 tac. Ça ralentissait. J'étais obligé de traîner le groupe. Ça, j'haïssais ça. Puis il me disait, ouais, mais pourquoi tu fumes pas, toi aussi? Moi, mon trip, là.
C'est pas ça le problème.
Mon trip, c'est d'arriver sur scène puis de chanter. C'est ça, ma dope, moi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça que j'aime. Tu sais, la montée d'adrénaline, la crainte que t'as avant de monter sur scène.
Mm-hmm.
T'es jamais sûr que tu vas gagner, là. Tu sais, c'est quelque chose qui se passe. T'es deux forces qui vont se rencontrer, OK? Celui qui est sur scène et celui qui est dans la salle.
Ah, ouais,
parce que, auprès tout le public, c'est comme une personne, si tu veux. Moi, je voyais ça comme ça, et moi, tu me demandes comment ça allait en tournée. Moi, il fallait absolument que quelques heures avant le spectacle, je mette ça, être seul sur scène et arpenter la scène pendant une heure, deux heures, juste marcher sur la scène.
Mm.
C'était comme prendre possession des lieux.
Ah ouais,
dire ça ici,
c'est dans ta tête.
C'est chez moi, ça. Ouais, c'est ici que je m'installe. Et là, je m'installais là pour X heures. Et je faisais mon spectacle. Et puis,
mm-hmm.
J'adorais ça.
Ah ouais?
Ah oui. Ouais, okay. Oui. La montée d'adrénaline avant, toute la nervosité. Tu vois, je suis ici, on est en train de se parler. Moi, là, j'ai les doigts froids, là. C'est la même chose qu'avant de monter sur scène ou les premiers moments où t'es sur scène. Il y a quelque chose qui se passe dans l'organisme. De dopamine, ou je sais pas comment appeler ça, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, ça dure, même après le spectacle, là. Pendant une demi-heure, tu es encore dans cet état d'effervescence. OK, c'est comme quand tu ouvres une bouteille de coke ou une bouteille de bière. Il y a de l'effervescence. Et puis une demi-heure après, il y en a un petit peu moins. Alors après le show, là, je parle, moi, une demi-heure après le show, à peu près, tout à coup, tlouk, tout tombe. Mais ça aussi, c'est un bien-être. C'est comme si... c'est fait. La détente arrive, à moins d'avoir manqué ton coup. C'est arrivé une couple de fois où j'ai manqué mon coup.
Ah ouais?
Ouais. C'est pas toujours facile.
genre, mettons, c'était quoi ton pire show?
Mon pire show, c'est un show que j'aurais pas dû faire. C'était à la Place des Arts. J'avais fait un spectacle en 78, je pense, après la sortie de mon album Le Temps d'aimer. Et puis, l'année d'après, j'ai pas assez attendu. Il fallait attendre au moins 2 ans avant de retourner à la Place des Arts. Deux ans et demi, 3 ans même, des fois. Puis moi, je suis allé plus tôt. Et je suis arrivé là, j'avais pas assez de matériel solide et j'ai commencé mon spectacle. Ça levait pas dans la salle.
Okay.
Mais ça, et là, et tabarnouche, je suis parti du fond de la scène en disant « Hey! » En criant, puis je fonçais vers la foule. Comme pour « Hey, réveillez-vous! » Mais le problème, c'était pas la foule le problème. Le problème, c'était moi. J'avais juste pas le bon matériel. J'étais juste arrivé trop tôt. J'aurais dû attendre, avoir du matériel plus fort, puis arriver plus tard. Ce que j'ai pas fait.
Mais
je l'assume.
Ouais, t'as tiré la leçon aussi.
Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Okay.
On apprend, hein? On apprend de nos erreurs.
Ben oui.
Ouais.
Mais, tu sais, y a-tu des spectacles où ce que, tu sais, genre, d'un fois, le public... Tu te lances des affaires ou
non, jamais.
Non, OK.
Ça jamais
dégringolé de même.
Non, non. Ce que j'haïssais faire, des fois, c'était le spectacle de la Saint-Jean avant que ça devienne le spectacle de la fête nationale, mais c'était le 24 juin pareil, là.
Ouais.
T'arrivais dans des endroits où le système de son n'était pas bon. Le monde était déjà chaud quand t'arrivais à 8 heures. Les gens vont là pour l'événement, pas pour l'artiste.
Mm-hmm.
Et ça, c'est extrêmement difficile, ramasser le public en plein air.
Ben oui.
Mais il y a des fois où je l'ai ramassé, le public en plein air, puis il y avait 200 000 personnes. Mm-hmm. C'est arrivé près de la carrière Miron, ici, à Montréal, une fois, je me rappelle pas en quelle année. Ça avait été un méchant succès. J'avais ramassé de morceaux, là.
Ah ouais? Il y avait-tu vraiment 200 000 personnes?
Oui. Ah ouais? Oui, mais j'étais pas seul. On était plein d'artistes.
OK.
Mais t'arrives là, puis là, tout le monde a peur. Hey, Jacques, là, fais pas de show ici. C'est-à-dire, fais pas un slow ici à soir, là. C'est pas le temps. Puis j'avais dit, ça, mon tour de chant, là, c'est moi qui le prépare. C'est moi qui trouve l'équilibre des chansons où ça doit aller. Puis je vais faire ce que je pense.
Mm-hmm.
Et c'est ce que j'ai fait. Puis je suis arrivé avec une chanson qui s'intitule « Pour toi ». Et là, parce que le type qui m'avait booké là, qui m'avait programmé là-dessus, m'avait dit « Là, tu chantes pas pour toi ici à soir ». J'avais dit « Non, non ». J'avais dit « Non, non », mais moi, je savais que « Pour toi » était dans mon tour de chant, puis elle arrivait à la 5e chanson. Parce que pour moi, quand je structure l'ordre de passage, l'alignement des chansons dans un spectacle, c'est tout un exercice. Ça peut prendre ça me prend des semaines à le préparer, mm-hmm. avant une tournée, OK? Si un artiste n'est pas allé chercher son public à la cinquième chanson, il va ramer un. À la cinquième chanson, il faut que tu sois allé chercher ton public. Mm-hmm. Absolument. Non, absolument.
Faut que tu ailles avec toi.
Ouais.
Puis, fait que tu faisais un show, fait que j'imagine que si je te pose la question, c'était quoi ton plus beau show que tu as eu, ton plus beau spectacle, c'est celui-là ou il y en a un autre qui te vient en tête?
Oh boy! On parlera pas de spectacle, mais on va parler de performance si ça te convient.
Ça rentre là-dedans.
À Spa, en Belgique. On était 16 concurrents, je pense, puis on avait chacun 3 chansons à faire. Puis tout le temps... Dès que je suis arrivé là, moi, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir les photos des 16 autres. Il y avait un kiosque, puis je voulais leur voir la bine, puis savoir à qui j'avais affaire. Tu regardes une photo, puis tu dis, oh, lui, il a du tempérament, lui, il n'en a pas, ou lui, ah, oh, il y a tel truc, tu sais. J'essayais d'étudier qui étaient mes concurrents, là.
Mm-hmm.
Et quand je suis allé à la conférence de presse, tout le monde arrivait avec son petit papillon, sa petite cravate et tout ça. Moi, je sortais de l'armée il n'y avait pas longtemps, puis j'avais encore mon poncho de militaire. Puis je suis arrivé là avec mon poncho de militaire sur le dos, parce que c'est une ville où il pleut tout le temps, n'est-ce pas? Okay? Puis il pleuvait, et mon cigare brésilien dans la bouche. Tu sais, les petits cigares, ils sont fins, là. La partie que tu mets dans la bouche, puis ça en va en grossissant au bout. Puis tu crottes dedans, c'est dur comme une carotte, c'est pas
t'as,
mal. Hein?
T'as juste l'air de Fidel Castro.
Et oui, puis là, il te demandait ce que tu veux boire. J'avais jamais pris de scotch de ma vie, et je dis, un scotch sans glace. C'est pas drôle. Mais je donnais un show, là. OK? Ça a été ça. Ensuite, on commençait les répétitions. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé là, moi, j'ai pris soin des musiciens. Ils étaient 18, je pense, dans l'orchestre. Le chef d'orchestre, tu vas le saluer. Tu y serres la main. Tu dis bonjour à tout le monde.
Mm-hmm.
Et quand tu as fini ta répétition, tu dis merci à tout le monde. Puis bon. Je faisais ça. Moi, je soignais l'équipe, OK? C'était pas mon équipe, mais je soignais l'équipe, le type qui était au son aussi. Et quand je chantais, les autres, mes concurrents, étaient dans la salle, mais moi, je chantais pas face à la salle. Je leur tournais le dos, puis je chantais face à l'orchestre.
Pourquoi?
Low profile. Je faisais rien, je projetais pas, je retenais ma voix, je faisais aucune mimique, aucun geste, rien. Et la veille de... Ça avait lieu sur 3 soirs consécutifs. Pour passer les 16, là, il fallait faire ça en 3 soirs. Et moi, après avoir écouté ce qui arrivait le premier soir, je me suis dit, moi, je vais m'organiser pour avoir un meilleur son sur scène. Alors, demain, je vais aller voir le gars qui fait le son. Et là, on a travaillé ensemble. Et tout ce qu'on avait comme moniteur, tu sais de quoi je parle quand je dis un moniteur, hein? C'est un petit cornet qu'il y avait sur le pied du micro.
Ah, ça, c'est pour t'entendre chanter.
Oui. Oui, oui, mais t'imagines le son qui sort d'un petit cornet métallique. Ouais. Mais on a réussi à travailler là-dessus. Et j'ai eu du bon son quand j'ai fait ma performance. Assez que les critiques disaient, on comprend pas. Les autres chantent, on comprend pas ce qu'ils chantent. Puis ce Canadien arrive ici, il chante et lui, on entend tout. Mais oui, mais le jour de la générale, parce que c'était télévisé aussi, alors que tous les concurrents sont dans la salle, là, je me suis tourné vers les concurrents et les gérants des concurrents qui étaient là et tout ça. Et là, j'ai mis toute la gomme. Et c'est là que j'ai gagné.
Okay, wow.
Je les ai impressionnés. Et il y a même un des gérants qui est venu me voir à mon hôtel, parce qu'on partait de là, de la générale, on s'en allait à l'hôtel se préparer pour revenir ensuite pour la soirée, puis qui frappe à ma porte, puis dit « Ton bluff de tantôt, ça marchera pas. » Et j'ai répondu, puis ton intervention que tu fais, ça ne marchera pas non plus.
Il voulait venir t'intimider?
Exactement. Bien, il a joué la même game, le même jeu que j'ai joué avec les concurrents qui étaient là. Ouais. C'était ça ce qu'il faisait. Lui, il défendait son artiste. Je le comprenais, ça. Mais il faut pas se laisser écraser par un truc comme ça. C'est moi qui me serais fait battre.
Mm-hmm. Ça t'a amené quoi de gagner ce concours-là?
C'est ça qui m'a fait reconnaître ici. Ah. par les gens d'ici.
Ah ouais, j'aurais pensé juste le contraire, ça t'aurait fait reconnaître à l'international, mais non, fait que ça a fait, vu que t'avais gagné là-bas au Québec, ils se sont dit « Oh shit, hey, ça pogne là! »
Ben, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ce qu'il y avait d'intellectuel ici, tu sais, eux autres, ils étaient restés avec « Je reviendrai te chercher sur un dinosaure », peut-être dans leur tête, je ne sais pas, mais c'est passé au téléjournal le soir, à Radio-Canada, ça, je gagne, puis tout de suite au téléjournal, ils lisent les nouvelles, puis le lecteur de nouvelles dit que je viens de remporter le Grand Prix à Spa. Le Grand Prix, là, c'était pour le texte, pour la musique et pour l'interprétation de ma chanson.
Mm-hmm.
C'était pas « il a gagné un prix d'interprète ». Il l'a gagné à tout.
Tout le paquet.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et puis, quelques mois plus tard, je me retrouve à Tokyo à défendre Un nouveau jour va se lever.
Mm-hmm.
Tu vois, Spa, c'était au mois de juillet et Tokyo, c'était au mois de novembre.
Mm-hmm.
Puis après, ils m'ont demandé pour un troisième concours. Je ne me rappelle plus si c'était en Pologne ou à Athènes. Puis j'ai dit non. Puis, parce que si j'avais gagné une troisième fois, ça n'aurait eu aucun impact. J'en avais déjà gagné deux. Hein? Le Grand Prix à Spa et un deuxième prix à Tokyo où il y avait 45 pays participants. Puis j'ai dit, si je perds, je démolis tout ce que je viens de gagner.
Ouais,
alors moi, là, on laisse ça là. On garde ça comme ça.
Mais tu voulais-tu faire carrière à l'international?
Oui.
Aller en France?
Bien sûr, depuis le début. Je suis allé pour une couple d'émissions de télévision. Mais Yvan Dufresne, dont je parlais tout à l'heure, il était en train de faire une faillite quand j'ai gagné, moi. Il a quand même réussi à trouver de l'argent pour enregistrer « Amène-toi chez nous » pour qu'on le mette sur le marché tout de suite. Puis Yvan, il y avait déjà des contacts en Europe, mais là, il n'y avait plus l'argent pour le faire. Et moi, là, j'étais au début de ma carrière. Même si j'avais 5 albums de fait, là, 4 ou 5 albums, j'étais quand même au début de ma carrière. Puis tu te rappelles ce que je te disais tout à l'heure, Guy Latraverse voulait que je fasse tout de suite la Place des Arts, puis je trouvais que j'avais pas assez de matériel. Je ne pouvais pas non plus m'en aller là-bas puis commencer à vouloir faire des tournées ou des trucs comme ça. Puis des gens qui avaient travaillé en Europe en 1970 n'avaient pas bien encore. Probablement que, je ne sais pas si Charlebois était allé, mais c'est à l'époque à peu près où Charlebois a commencé à aller là. Il y a Félix Leclerc qui avait ouvert le chemin, bien sûr. Il y a eu Raymond Lévesque qui était là un petit bout de temps. Pauline Julien qui a chanté là aussi un peu. Adlaé qui a chanté là.
T'as-tu connu Félix Leclerc?
Moi, j'ai rencontré Félix Leclerc une fois dans ma vie. J'étais tellement impressionné, je ne savais pas trop quoi lui dire. Je suis allé le voir au Patriote à Montréal un soir, en spectacle.
Okay.
Et je suis allé dans sa loge après pour le féliciter, mais je ne suis jamais allé le déranger chez lui à l'île d'Orléans. Je demeure à l'île d'Orléans aujourd'hui. Lui, il demeurait à Saint-Pierre. Je n'aurais jamais acheté une propriété du côté de Saint-Pierre. Ça, pour moi, c'est à Félix.
Okay.
Moi, je suis du côté sud. Je suis à Saint-Jean, sur la rive sud de l'île d'Orléans.
Okay.
J'aurais pas osé. J'ai des amis dans le métier, ben, des connaissances ou des qui sont allés voir Félix et tout ça, mais moi pas. J'aurais eu l'impression de déranger. J'aime pas ça. Félix aussi a été reconnu seulement après son grand succès en France. Il y a quelques personnes ici qui reconnaissaient le talent de Félix Leclerc, mais pas le public en entier.
OK.
Je comprends. Après son succès en Europe, oui.
OK.
Et c'est fréquent. C'est fréquent. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, pour certains artistes, les Québécois tardent à les accueillir, à les supporter. Moi, je ne me plains pas parce que je suis bien content d'avoir eu à faire 4 à 5 albums avant de commencer à avoir des succès parce que pendant tout ce temps-là, j'apprenais à écrire. T'imagines-toi si j'avais eu des succès au début de ma carrière?
Mm-hmm. T'étais pas prêt pour ça?
Non, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'apprenais.
Okay.
J'apprenais. La dernière chanson de mon dernier album, c'est le titre, c'est « Mon dinosaure est fatigué ». Et si jamais tu as l'occasion là, de l'écouter, Tu vas voir. Mais bonne parce qu'elle fait le tour. Elle fait le tour. Le premier succès, c'était « Je reviendrai te chercher sur un dinosaure ». Puis là, c'est « Mon dinosaure est fatigué ».
C'est ça, à un moment donné, là.
Ouais, il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi, qui disait Charles Aznavour. Il faut savoir quitter la scène aussi quand le dinosaure est fatigué.
Puis c'est ça, tu voulais t'en aller en France, ben, à faire carrière à l'international.
Oui.
Puis ça, ce désir-là, il venait d'où? C'est que... Tu sais pas, t'es inspiré par les grands de cette époque-là.
Oui, oui. Moi, quand j'ai commencé à l'âge de 17 ans, je crois, dans un groupe qui s'appelait les Rock'n'Roll Kids à Sherbrooke.
Ouais.
C'était un groupe qui faisait de la musique en anglais. OK? Leur guitariste a sacré le camp et je les avais rencontrés avant dans une histoire de mariage, je sais pas trop quoi. Je leur avais demandé de m'accompagner pour une chanson. C'était un mariage dans ma famille. Et puis, suite à ça, eux, quand le guitariste est parti, ils m'ont dit, bon, mais est-ce que ça te tenterait de... J'ai dit oui. Et là, moi aussi, j'en chantais quelques chansons en anglais à l'époque, tu sais, des chansons des Everly Brothers, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à jouer avec eux. Mais moi, je m'intéressais surtout à la chanson d'expression française, la chanson francophone. Et j'ai commencé à en glisser une de temps en temps. Puis là, le chef d'orchestre n'aimait pas trop ça, à raison. C'était les Rock'n'Roll Kids.
Mm-hmm.
Mais quand je chantais une chanson en français, les gens applaudissaient. Quand on chantait du rock, ils étaient bien contents, ils dansaient puis tout ça, mais ils applaudissaient pas après la chanson.
Mm-hmm.
Ensuite,
c'est comme s'ils se reconnaissaient pas.
Je sais pas.
S'identifiaient pas.
Ouais, peut-être. Ça. Je sais pas quoi, mais ça leur faisait plaisir. Je chantais des succès aussi à l'époque là, en français au tout début comme ça. Et le guitariste, je me suis dit, il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'appuie là-dedans. Le guitariste, lui, aimait ça, les chansons françaises, parce qu'il y avait plus d'accords dedans. C'était pas du trois accords.
Mm-hmm.
Ah, il aimait ça. Alors, j'ai dit au gars, OK, vous voulez plus que je chante? J'ai dit ça au chef. Tu veux plus que je chante en français? Parfait. Pendant la pause de 15 minutes entre les... entre parenthèses, là, pas entre parenthèses, entre guillemets, les sept, là,
mm-hmm. OK?
Moi, je vais rester avec le guitariste sur scène, puis pendant 15 minutes, on fait de la chanson française.
Genre pendant l'entracte, dans le fond.
Exactement.
Ouais.
Nous autres, on jouait une demi-heure, on arrêtait 15 minutes. On jouait une demi-heure, on arrêtait 15 minutes. On faisait de la danse dans le temps.
Mm-hmm.
Bon, le chef n'était pas trop content de ça, mais c'est ça qu'on a fait.
Tu le déranges pas. Mm-hmm.
Ouais, jusqu'au jour où on s'est chicané, puis j'ai dit, moi, je m'en vais, puis j'ai dit, je pense que les autres gars vont rester avec moi, c'est ce qui est arrivé.
Ah, OK.
Ouais. Et là, j'ai eu mon groupe, que j'ai appelé les Colibris, et c'est ces trois gars-là que je payais 52 semaines par année après.
OK. OK.
Ouais.
Puis, c'est ça, là, on parlait maintenant de la France, fait que c'est ça, oui. Tu sais, t'as aimé ça t'établir.
Oui. Bien, sûr, quand j'ai chanté à Spa, il y avait Roland Dordain qui était là, ça ne dit rien à personne, mais Roland Dordain, c'était le directeur de l'ORTF, l'Organisation Air de la Radio-Télévision Française, ou quelque chose comme ça. OK.
Okay.
Et c'est lui qui était président du jury. Puis lui, il m'avait fait venir à l'ORTF. Il m'avait fait venir à l'ORTF, justement, pour faire une émission de télévision qui s'appelait « L'invité du dimanche ». J'en avais fait une autre après, parce que j'ai des disques qui ont été faits en France, qui ont été faits en Belgique. Je dois te dire, puis ramène-moi si ça ne t'intéresse pas, ça, ou si ce n'est pas intéressant. Avant de chanter à Spa en Belgique... J'avais fait ici du cabaret avec un gars qui s'appelait, qui avait le même nom que moi, Luc Michel. Okay. Et moi, c'était Jacques Michel. On ne se connaissait pas, on n'était pas parents. Jacques Michel, c'est un nom d'emprunt. Mm-hmm. Mon nom légal, c'est Jacques Rodrigue, et non pas Jacques Michel.
OK.
OK, lui aussi, c'était un nom d'artiste, Luc Michel. Et j'avais dit, moi, j'aimerais ça faire carrière en Europe. Je vais t'engager pour faire ma promotion en Belgique. Tu connais des gens de la radio, de la télévision, faire entendre mes chansons et tout ça. Ah, il m'a dit oui, je le payais. Moi, il y avait son chèque à chaque semaine. Puis un jour, il y a eu une émission à la radio, lui, en plus. Alors, il s'est mis à tourner de mes chansons. Si bien que quand je suis arrivé en Belgique, là, moi, après que j'ai gagné, Columbia m'a tout de suite signé là-bas un contrat, puis ils ont mis une couple de disques en marché. Mais j'étais pas là pour supporter le produit. Il faut être là. Il faut aller faire de la promotion. Il faut rencontrer les gens. Faire des émissions et tout ça. Faire de la tournée. Tu chantes deux, trois chansons. À l'époque, il y avait la vedette anglaise, la vedette américaine, puis la vedette. Ça s'appelait comme ça. Mais la vedette anglaise, elle chantait pas anglais. La vedette américaine, elle chantait pas en américain. C'était l'anglaise, elle faisait 3 chansons. L'américaine en faisait 5. Puis la principale, elle faisait le reste du show. C'était, c'était comme ça. Alors non, ça arrive. Je suis pas allé.
Mais quand tu es revenu au Québec, c'est dans les années 70, oui. Mais même durant la crise d'octobre.
Oui.
C'est là que tu es revenu
oui,
au Québec.
Oui. J'ai même pris. Je me rappelle plus si en revenant de Tokyo ou en partant pour Tokyo. Je me rappelle pas trop, mais je me rappelle être arrivé à Dorval. Il y avait tellement de gendarmerie là, puis de policiers, puis il y avait des felkistes. Ils partaient pour Cuba, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Alors, si on faisait une recherche, on saurait à peu près dans quel mois ça se passait. Ils doivent pas être partis pour Cuba au mois de juillet, alors que je m'en allais à Spa, octobre 70, c'était pas encore arrivé. Mm-hmm. Ça, je me rappelle de ça. Et quand je suis parti pour Tokyo, premièrement, je dois beaucoup à Roger de Vaudreuil, qui est décédé aujourd'hui. C'est lui qui m'a demandé d'aller représenter le Québec à Spa, en Belgique. Qui m'a dit, genre, t'aurais pas une chanson qui pourrait être gagnante pour... Mm-hmm. J'ai dit, oui, j'ai une nouvelle chanson... Je vais vous faire entendre ça. Je lui ai fait entendre « Amène-toi chez nous ». Il m'a dit « Hey, ça c'est une chanson gagnante ». Alors, après être revenu, je suis allé enregistrer un micro-sillon à Londres. Citoyen d'Amérique, j'ai enregistré ça à Londres. Dans... Comment s'appelait le studio? Je ne me rappelle plus. Et là-dessus, il y avait un nouveau jour, va se lever. Maurice Dubois de Radio-Canada m'appelle et me dit « Jacques, Tokyo fait un concours de chansons. Il y a 45 pays ou à peu près participants. T'en aurais pas une autre bonne à venir défendre là-bas? » Ben, je dis, peut-être, oui. Un nouveau jour va se lever. Je pense que c'est une chanson qui pourrait gagner.
Oui. Puis qui parle de souverainisme.
Entre autres.
Ouais.
Ouais. Et il me dit, OK. Et là, on part, puis on s'en va à Tokyo, puis non, on part pas tout de suite. J'avais signé un contrat pour une émission de télévision à Radio-Canada qui passait le dimanche soir. Ça a changé de titre assez souvent, l'émission du dimanche à Radio-Canada. Et octobre est arrivé, le disque était enregistré, octobre est arrivé, on n'était pas encore parti pour Tokyo. Et il y a quelqu'un à Radio-Canada, pas Maurice Dubois qui m'avait demandé, mais il y a quelqu'un à Radio-Canada qui décide que quand je vais revenir... Je ne pourrais pas chanter à Radio-Canada « Un nouveau jour va se lever ». Alors là, moi, je rue dans les brancards. Hein. Je dis « Hey, si ma chanson n'est pas bonne pour ici », je savais que ce n'était pas ça, c'était de l'autocensure
oui,
à Radio-Canada. « Si ma chanson n'est pas bonne pour ici, n'est pas bonne pour Tokyo, les gars, moi, je n'y vais pas. » Je dis « Là, Maurice, là, t'arranges ça, parce que moi, je n'y vais pas à Tokyo. Puis si je n'y vais pas, tu n'y vas pas toi non plus. Hein. Mm-hmm. Il ne pouvait pas m'accompagner, je n'y allais pas. » Et j'ai dit « Moi, j'ai une solution pour que ça se fasse. Je veux qu'on inscrive sur mon contrat de l'émission du dimanche le titre de chacune des chansons que je dois interpréter. » J'avais un 20 minutes dans l'émission, je pense. Et Lise Payette m'a aidé là-dedans. Lise Payette m'avait dit, j'en avais parlé
c'est,
à Lise.
C'est une députée, ça?
Oui, oui, la ministre, oui. Oui,
c'est ça.
Oui, oui. Elle a été recherchiste déjà à Radio-Canada. Et je parle de ça à Lise, puis je dis, hey, ça n'a pas d'allure, ils ne veulent pas que je la chante. Elle m'a dit, tiens ton bout, c'est toi qui vas gagner. Tu vas la chanter, ta chanson, tiens ton bout. Mm-hmm. Ils vont plier, tiens ton bout. Ce que j'ai fait. Mais tu sais, il faut prendre des risques dans la vie. Hein?
Mm-hmm.
Ouais, alors j'ai risqué cette fois-là, et effectivement, j'ai chanté « Un nouveau jour va se lever ». À la télévision de Radio-Canada.
Puis c'est ça, si on se met en contexte, c'est ça, il y avait la crise d'octobre avec les felkistes qui venaient d'enlever le ministre de la Porte.
Oui, mais il y a pire que ça. Pendant que je suis à Tokyo, j'ai un attaché d'ambassade canadienne, ses talons partout où je vais, moi.
OK.
Et je me dis...
Puis lui, il s'assure de quoi? C'est quoi sa job à lui?
Oh!
Que tu représentes le Canada et non le Québec?
Ah ben, c'était le Canada, hein, le Japon. Je représentais le Canada pour eux. Puis c'est le Canada que je représentais, veux pas, là. Et je me disais, maudit, accorde l'importance aux artistes.
Mm-hmm.
Le Canada, je trouvais ça super. Il m'invitait, on allait souper, je me rappelle, dans des restaurants japonais. C'était en boucané, on montait un sixième étage, ça cuisinait à partir du premier, la fumée montait jusqu'en haut. Je me rappelle de ça, ça m'avait... Et à un moment donné, pendant les répétitions, l'attaché de l'ambassade de France me dit « Monsieur, c'est vous qui devriez gagner le premier prix ici. » Mais pour des raisons politiques, ça ne sera pas vous. Il me dit juste ça. Alors, le soir de la finale, j'ai hâte de voir qui c'est qui va le gagner, le premier prix, moi, tu comprends? Mm-hmm. Et c'est Israël. Et dans ma tête, je me dis, ouais, je savais qu'ils étaient forts, mais je pensais qu'ils n'étaient jamais aussi forts diplomatiquement. Et puis avec
pourquoi,
le temps...
Mais pourquoi Israël? C'était quoi le contexte à l'époque?
Moi, je pense simplement... que l'organisation avait été avertie qu'un nouveau jour va se lever. Ça ne pouvait pas gagner à cet endroit-là.
Okay.
À cause d'octobre ici. Et c'était pour des raisons politiques que, comme m'avait dit l'attaché de l'ambassade française. Alors, j'ai gagné un deuxième prix avec. Mm-hmm. Mais il reste que pendant les campagnes électorales ici, là, par la suite, là, un nouveau jour va se lever. Il y a certaines stations radio... Ce sont les disc jockeys de l'époque qui me disaient ça. Écoute, ici, le boss, il met le disque dans le coffre-fort là, pendant la campagne électorale. Ça tourne pas, ça, là.
Ouais,
interdit de le tourner. Ah ouais, censure.
C'était parce que pour une partie de la population au Québec, durant la crise d'octobre, c'était carrément un hymne national.
Bien sûr. Mais moi, j'ai eu la gendarmerie royale chez moi. J'étais pas là quand elle est venue, mais... Moi, avant de partir pour Tokyo, j'étais allé voir Pauline Julien. Chez elle. Elle préparait un spectacle pour la Place des Arts. Pendant que moi, je chantais Un Nouveau Jour à Tokyo, elle le chantait à la Place des Arts.
Mm-hmm.
Okay? Et moi, j'avais laissé mes coordonnées sur la feuille avec les paroles de la chanson, tout ça, mon numéro de téléphone, mon adresse et tout. Je t'apporte ça, Pauline, il y a un ruban avec, tu l'écoutes, puis si ça te convient, tu la chantes à ton spectacle, ça va me faire plaisir. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait, mais ils ont trouvé tout ça, eux autres. Puis Pauline, elle a été arrêtée. Moi, ils sont venus chez nous. J'avais un beau-frère qui était là, un petit jeune. Il ne savait pas ce qui rentrait dans la maison. Ils ont tout fouillé. Ils ont viré les tiroirs à l'envers. Ils ont tout fait, mais ils ont trouvé un 12 chez nous. Mais tout le monde avait un 12 à l'époque ou une 22. Ensuite, quoi d'autre? Il y avait un felkiste. De la première époque, des felkistes.
Puis là, cette époque-là, c'était quoi? C'était-tu, à ce moment-là, ils cherchaient les felkistes qui avaient fait le coup?
Oui, ils cherchaient les felkistes qui avaient fait le coup, mais...
Mais ça avait été disproportionné, là,
oui, bien sûr.
Parce qu'eux autres, dans le fond, le but de Pierre-Éliott Trudeau, c'était de mettre fin au mouvement séparatiste.
Oui, les séparatistes. Comme il disait, c'était pas des séparatistes, c'était des séparatistes. Mais, moi, j'étais pas... Il semblerait que c'est M. Bourassa qui a demandé à M. Trudeau la loi des mesures de guerre.
Ouais.
Et ça, j'en sais rien, tu sais. Puis je suis pas placé non plus pour dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Mais j'ai le droit de me questionner là-dessus. Mm-hmm. C'est comme ça que je le vois. Parce que j'ai déjà été sur la même émission que Pierre-Éliott Trudeau, une émission de variété encore avec Lise Payette et ses attachés. Tu sais, ceux qui tournent autour, là.
Ouais.
Il avait demandé à voir les paroles de la chanson que j'allais chanter à l'émission.
Ouais.
Hey! C'est de la censure, ça.
Mm-hmm. Ben, qu'ils en regardent, OK, mais...
Ouais, tu regardes, oui, mais moi, je savais très bien. Je suis pas un con, là. Ouais. Je savais que je pouvais pas chanter là, devant Pierre-Éliott Trudeau, « Un nouveau jour va se lever ». Et pourtant, « Un nouveau jour va se lever », là, est pas juste québécoise. C'est pas une chanson de ralliement uniquement québécois. Viens, « Un nouveau jour va se lever, son soleil... » brillera pour la majorité qui s'éveille. Il y a combien de pays où il y a des majorités qui s'éveillent? Il y a combien de pays où il y a des injustices? Il y a combien de pays où il y a des choses à combattre? C'est pas juste Québec, puis je mentionne jamais le mot Québec là-dedans. Il y a combien de pays où il faut garder silence, où on nous met des muselières? Il y a combien de pays où on est traité comme des esclaves? Il y en a plein. Cette chanson-là va jamais mourir, un nouveau jour va se lever, parce que malheureusement, il y aura toujours des injustices quelque part. Tu sais, moi, je pense que de New York à Moscou, de New Delhi à Pékin, nomme-les, du Brésil au Mexique, Brasilia au Mexique. Les peuples ont tous les mêmes valeurs, sauf qu'elles sont traitées différemment par les pays dirigeants. Tout le monde désire une chose dans la vie, je pense, la liberté et le bonheur. Ça, là, si tout le monde avait la liberté et le bonheur, t'imagines comment ça irait bien sur la planète.
Mm-hmm.
À moins qu'il y ait trop de dirigeants. Ouais.
Fait que, tu sais, quand t'es revenu, c'était durant la crise d'octobre, puis j'imagine que ça a dû te marquer parce que c'est à partir de 71 avec le nouveau album SOS que.
Oui.
Puis ça, c'était l'album le plus engagé que tu as fait.
C'est engagé, je comprends. Je sais pas si tu as lu le texte déjà de Je débarque. C'était engagé. Oui.
Puis pourquoi t'as voulu faire ça de même?
Un créateur. C'est comme un aimant qui ramasse toutes les particules métalliques qui flottent, OK? Au lieu que ce soit des particules métalliques, mm-hmm. ce sont des courants de ce qui se passe dans la société. On assiste à quelque chose. On le voit. Parfois, on le perçoit. Ça nous bouge, ce qui se passe, comme ça bouge à peu près tout le monde. Sauf que nous, on n'a pas nécessairement le même point de vue que tout le monde, mais on a bien du monde qui a le même point de vue que nous.
Ouais.
Alors, ce qu'on fait, on prend ça. Moi, j'observe, je prends ça et je le mets en chanson. Je dis pour plein de gens qui ont d'autres talents que le mien, je dis pour ces gens-là ce que ces gens-là souhaitent, pensent, désirent, contestent, ou c'est tout ça. C'est à ça que les artistes servent, que ce soit en chanson, en musique, en peinture. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait à travers la culture, dans les arts et tout ça. Et ça fait toujours avancer les peuples. Ça les fait reculer, généralement. Généralement, ça les amène vers l'avant.
Fait que, dans le fond, tout l'abus de la loi martiale qui était arrivée, qui était comme caché pour... Tu sais, il disait que c'était pour trouver les felkistes, mais en même temps, c'était plus une décision cachée pour détruire le mouvement indépendantiste.
Oui, je vais te dire un truc, c'était pas la première fois que ça arrivait.
Non?
OK, quand il y a eu la rébellion des patriotes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'Église et le pouvoir politique. Ils ont dit, on va en prendre quelques-uns, puis ça va finir là. Ouais. On n'entendra plus jamais parler de ça.
Avec John et McDonald.
McDonald, il a pendu Louis Riel. Et qu'est-ce qu'il a dit, McDonald?
Il dit, je vais les pendre même si tous les chiens aboient.
Même si tous les chiens du Québec aboient.
Les chiens du Québec aboient.
Alors, moi, j'ai jamais voté conservateur, sauf quand c'était pour Brian Mulroney. Jamais j'ai voté conservateur à cause de McDonald.
Mm-hmm.
En partant, là, c'était même pas des programmes politiques pour moi. Mulroney, c'était plus pour son programme politique. Mais pour les autres, j'ai jamais voté pour les autres. Comme ça. Alors, donc, la rébellion.
Mm-hmm.
Et là, tout le monde se dit, OK, c'est fini. Non, non. La révolution tranquille est arrivée en 1960. Toute la montée nationaliste qui nous a mis au monde, nous, les Québécois, on a décidé de se prendre en main puis de s'affirmer. Et là, arrivent les événements d'octobre et Pierre Elliott Trudeau fait ses mesures de guerre puis il dit, fini les folies. Fini les folies, on a eu un autre référendum quand même en 1995.
Ouais.
Puis j'ai hâte de voir les documents qui vont sortir maintenant, là.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon essaie d'aller chercher.
Exactement. Oh, oui, on va apprendre des choses parce que ce référendum, à mon avis, on le gagnait.
Il a été volé.
Il a été volé. Oui. Donc, il y en a eu une autre folie. Il y a eu un autre référendum. Mm-hmm. Et là, tout le monde pense que l'indépendance, c'est du passé, c'est de l'histoire finie. L'histoire commence vraiment quand tout le monde pense que c'est fini.
Mm-hmm.
Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, les jeunes aujourd'hui s'engagent moins dans cette voie-là que ma génération l'a faite, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus urgent à faire dans notre société actuellement, c'est de sauver la planète. Si on fait juste sauver notre langue puis qu'on ne sauve pas la planète ou si on fait juste sauver notre culture, puis qu'on sauve pas la planète, on sauve rien pantoute, là.
Ben, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais la fin, c'est que je fais, ouais, mais Chris, pour pouvoir avoir des décisions, puis tout ça, puis pour avoir un pouvoir politique, ben, Chris, faut avoir le pays, tabarnak.
Ah, ben...
C'est certainement pas le Canada avec l'Alberta. Hey, si tu sais, eux autres, c'est pas dans leur intérêt.
Tu peux pas savoir comme je suis d'accord avec toi là-dessus.
Le pétrole.
Ben, je comprends.
Puis nous autres, c'est tout dans notre intérêt d'aller vers les énergies renouvelables, qui est l'hydroélectricité.
Mais si...
Fait que, tu sais, c'est genre deux visions totalement différentes.
Sais-tu, bon, tu connais le texte d'Amène-toi chez nous, hein? Ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux.
Ouais.
Ben, sur 8 millions de gouttes d'eau, là, on est 8 millions de gouttes d'eau ici qui n'arrivent même pas à s'entendre pour en faire un ruisseau, tabarnouche. Les gens ont peur. Peur de quoi? Ils ont peur de perdre ce qu'on a. Moi, j'ai peur de perdre ce qu'on n'a pas encore acquis. Si on fait l'indépendance, on peut aller chercher encore plus de pouvoir, on peut aller chercher encore plus de choses pour nous. C'est bien plus qu'une question de langue. On est un peuple. Il faut se tenir debout. Tu sais, on dit, ah, les balles tuent. Moi, je trouve que notre silence nous tue. Et quand un peuple se tait, c'est un peuple qui est condamné à s'éteindre. Il faut ouvrir sa trappe, il faut prendre la rue, il faut manifester. Prendre la rue, c'est un peu dépassé parce que maintenant, on peut le faire par les réseaux sociaux. À notre époque, on prenait la rue, on manifestait, vrai? Bon, ben à mon époque, toi, t'es jeune, OK? Mais à notre époque, c'était ça. Aujourd'hui, ça se fait autrement.
Fait que, puis c'est que je voulais m'en aller avec ça, c'était que, tu sais, c'est ça, la loi martiale, dans le fond, a juste fait un peu l'effet contraire, que le peuple s'est encore plus fâché, plus réveillé, plus...
Oui, mais il y en a qui ont eu encore plus peur. Puis, tu sais, mon père était plus âgé que moi, bien sûr. Mais à un moment donné, il était dans une maison pour personnes âgées autonomes. Il avait décidé de s'en aller là. Et avec ma mère, puis il disait, tu devrais voir ça. Tous les vieux vierges de vieux qui sont ici, qui ont peur de perdre leur pension. Ils voulaient pas voter PQ, ils voulaient pas voter Bloc, ça avait peur de perdre leur pension. C'est con. C'est con, on perd pas notre pension parce que... Il y a des pays comme le Danemark, la Norvège. C'est quoi la population de ces pays-là? 5 millions? 6 millions? Puis, ça crève pas de faim là-bas, au contraire, ils ont des fortes économies, ça marche bien. Puis nous autres, On a été écrasés longtemps. Et avec la Révolution tranquille, on a commencé à acquérir une certaine fierté qu'on n'avait pas avant. On a réussi des choses extraordinaires sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Je pense à la Caisse de dépôt et de placement. Je pense à la nationalisation de l'électricité. Toi, je ne sais même pas si tu étais au monde à ce moment-là. Mais je vais te dire, les gens disaient, comment on va payer ce dette-là? Hey, faisons-nous confiance. Les barrages, la baie James et tout ça. C'est-tu des ingénieurs qu'on faisait venir de France ou d'ailleurs pour faire ça?
Non.
On s'était donné un système d'éducation. On avait donné l'éducation gratuite à tout le monde. On a commencé à mettre des universités, des facultés d'universités un peu partout à travers le Québec. Les gens ont commencé à s'instruire. On a fait des ingénieurs, on a fait des architectes, on a fait des chercheurs. On a réalisé, on a réussi tout ça. De quoi on a peur aujourd'hui? Pourquoi avoir peur? Moi, ce qui me fait peur, ça me fait peur, c'est rien faire. Ça me fait peur.
Ben oui. Ouais. C'est ça, je dis ça parce que 10 ans après octobre, ben c'est là qu'est arrivé le référendum de 80.
Oui.
Toi, tu t'es impliqué?
Bien sûr.
Ouais,
c'est sûr. Moi, cette année-là, j'ai même été président de la fête nationale. Pour la région de l'Estrie, je demeurais en Estrie à l'époque. Ensuite, chaque fois qu'il y avait des rassemblements référendaires avec René Lévesque et que j'étais libre, j'allais chanter gratuitement, mais je payais mes musiciens. Eux, ils ne voulaient pas jouer gratuitement. Alors, vous ne voulez pas jouer gratuitement, je vous paie, vous m'accompagnez, moi je chante gratuitement. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait un peu partout au Québec. Je l'ai pas fait juste pour le PQ. Puis c'est pas parce que j'étais membre... J'aime pas être membre de quelque chose, c'est pas plus qu'il faut.
Ouais,
tu comprends?
Ça, ouais.
Mais je l'ai fait pour Québec Presse à l'époque, qui était un journal de gauche, par exemple. Je l'ai fait pour des tas de. pour des événements humanitaires. Je l'ai fait pour toutes sortes de bonnes causes. Mm-hmm. Chanter gratuitement. Ben, pas juste pour le PQ.
Mais tu t'es impliqué beaucoup politiquement.
Oui. Politiquement, socialement. Oui, oui, oui.
As-tu rencontré René Lévesque?
Ben, j'ai rencontré René Lévesque, bien sûr. Puis je me rappelle encore du soir où ça se passait à l'Arena de Verdun. J'étais là et il me dit, tu sais, Jacques, j'étais avec ma deuxième épouse, ma première était décédée. J'étais avec ma deuxième épouse, j'ai dit, il faut faire des enfants. Le Québec a besoin d'enfants, il faut faire des petits. Je me rappelle encore de ça. Et il m'avait dit ce soir-là, on gagne pas. On va pas le gagner, celui-là. Il me l'avait dit. Il savait. Mais cet homme-là a été extrêmement important pour le Québec. Il a presque été mis dehors du Parti libéral, ce gars-là. Mmh. Tu sais,
Ben, il s'en allait se faire mettre en dehors de son propre parti.
Ah ben oui, ils lui ont fait ça aussi, ouais.
Oui, quand que... Mais puis c'est cette année-là qu'il est rentré, finalement. Il est rentré au pouvoir, je pense, c'était en 76, je pense, justement.
Mm-hmm.
Puis là, après ça, c'est ça l'affaire, c'est qu'il a amené tellement de nouveaux, tu sais, puis il a changé des affaires, tout ça. Puis là, ça a tellement bien marché que ça s'est un peu retourné contre lui, parce que là, il faisait, ben là, ça va bien maintenant, on n'a plus besoin de partir du Canada.
Oui, mais ça, ce sont les Québécois qui disaient ça. Et c'est ça le piège pour le Parti québécois. Tu comprends? On ne peut pas se séparer, ça va nous mettre dans la merde. Mais si le Parti québécois... Ça, c'est ce que le peuple dit bien souvent. Mmh. Si le Parti québécois prend le pouvoir, mais pourquoi on se séparerait du Canada? Regarde comme ça marche bien. Là, mmh. L'économie est bonne, ici, y a ça. Coup, ouais. Oui, mais avez-vous pensé à quel point l'économie pourrait être mieux si on décidait, comme tu disais tout à l'heure?
Ouais.
C'est pas toujours nous qui pouvons décider. C'est quelqu'un d'autre ailleurs qui décide pour nous. De toute façon, c'est toujours Rockefeller qui décide. OK? La finance.
Oh.
J'ai une chanson qui s'appelle Vodka Cola, puis c'est ce que ça dit dedans. Puis ça parle de la commission trilatérale et tout ça. Rockefeller aurait dit à un moment donné, lui ou un de sa gang, mais je pense que c'est Rockefeller, les gouvernements ne gouvernent plus, on va gouverner à leur place. Ben oui, tu gouvernes avec l'argent. C'est simple. Tu mets tes pions, puis tu gouvernes. Bon, on voit ce que Poutine a fait avec la Biélorussie. Il met ses pions un peu partout. Lui aussi, tout le monde fait ça. Mmh. Tu sais, je disais tantôt, les valeurs, elles sont à peu près les mêmes, mais ils ne sont pas bafoués de la même façon. Ouais. C'est tout.
Fait que tu t'es bien impliqué. Est-ce que tu t'es impliqué pour celui de 95?
Non, j'étais pas ici.
OK.
J'étais pas ici en 95. J'étais sur mon bateau quelque part dans les Antilles, je pense. Là.
Ouais. OK. Ouais, ah, c'est ça, parce que toi, dans le fond, tu sais, après tous tes succès puis tout ça, tu as décidé de mettre fin à ta carrière
de chanteur. Mais j'ai animé une série à Télé-Québec qui s'appelait On n'a pas tout vu. Ça a été en ondes pendant 6 ans de temps, okay. Je pense. On a enregistré pour 3 ans, puis on continuait à rediffuser. Et à cette époque-là, j'ai conçu avec mon ex-femme et écrit Le village de Nathalie. Et ça a été en ondes pendant 3 ans de temps.
Mm-hmm.
Et après le village de Nathalie, c'est dans les années qui ont suivi, là, je suis parti sur mon voilier et là, j'écrivais une autre série qui s'appelait Sur la rue Tabaga. On co-écrivait ça, elle et moi. Ouais. On n'était plus ensemble, on était divorcés, mais on avait X personnages, admettons qu'il y avait 10 personnages, elle écrivait pour 5 personnages, moi j'écrivais pour les 5 autres,
mm-hmm.
Chacun de notre côté.
T'aimais-tu plus écrire ça qu'écrire de la musique?
Je veux dire, quand j'ai commencé à écrire ça, j'avais la chienne. J'avais jamais écrit ça. Tu comprends? Mais si tu vas pas voir, tu sauras pas.
Mm-hmm.
Il faut aller voir. C'est Jacques Brel qui disait ça. Il faut aller voir. Il voulait dire, il faut essayer. Il faut oser. Tu comprends? L'aventure comporte des risques, mais la routine tue. Alors moi j'aime mieux prendre des risques. Et j'en ai pris des gros quand j'ai commencé à écrire pour les enfants. Oui.
Puis, quand, parce que tu sais, tout à l'heure, tu parlais que tu avais écrit pour d'autres, écrit quand même plusieurs chansons pour d'autres.
Oui.
Est-ce que c'est plus facile d'écrire pour les autres qu'écrire pour toi-même? Tu sais, parce que tu as quand même, je pense, c'est genre de 68 à... Monsieur, 11 ans, il y a quasiment 11 ans de temps, t'as un album par année.
Oui. Ah oui, il y a même des années où j'ai sorti 3 albums dans la même année.
Ah ouais?
J'écrivais.
Fait, c'était-tu plus facile écrire pour toi qu'écrire pour nous?
Ah non, pour moi, écrire, c'est pas facile. C'est pas du tout facile pour moi, écrire. Mais c'est là qu'est le plaisir. Tu comprends? Puis il y a même des chansons, parfois, que j'ai écrites, comme là, il y en a une que j'ai écrite il y a un an et demi, deux ans, à peu près. C'est un exercice que je, fais, que je faisais. Je suis parti d'un truc, puis il fallait que je fasse une chanson à trois couplets avec ça. Mm-hmm. J'ai travaillé des mois là-dessus, mais j'ai réussi à le faire. Elle sera probablement jamais sur un disque. Probablement, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Mm-hmm. Des fois, je lançais un mot. Dieu ne se mange plus. J'avais un ami qui s'appelle Raymond Paquin, qui a été gérant des colocs, okay, qui est décédé en 2014, je crois. Lui, il avait écrit une pièce de théâtre. Il avait commencé à écrire une pièce de théâtre intitulée « Dieu ne se mange plus », puis il me fait lire ça. Puis j'ai dit « Bon, mais vas-tu faire quelque chose avec ça? » Il dit « Non. » Hey, j'ai dit « Moi, je ferai un album avec ça, moi, si tu veux. J'intitulerai ça « Dieu ne se mange plus, 3 points. » Sous-entendu, on faisait savoir à tout le monde, par exemple, quand on faisait la promotion, que c'était « Il se fume. » Et c'était ça aussi. La religion s'était rendue ça. C'était pas l'hostie. C'était le pote. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était ça à l'époque. Alors, je dis à Raymond, ouais, est-ce que tu me permets de me servir de ça? Puis je vais écrire, un, comme titre de spectacle, comme titre d'album, et je vais écrire la chanson, mais je te donne autant de crédit que moi pour le texte de la chanson. Juste le ton titre de chanson. C'est ça l'affaire, en fait. Mmh. Et Dieu ne se mange plus, la promotion qu'on faisait, ça venait avec un sac qu'on portait à l'épaule et c'était écrit « C'est dans le bag ». Pas drôle, mais c'était l'époque. Et ça avait fait une bonne pub. Le Devoir, moi, j'achète de la publicité dans le journal Le Devoir. Le journal Le Devoir a entendu dire que c'était « Dieu ne se mange plus », 3 points, c'est « Il se fume ». Il refuse d'annoncer mon show. Hey! Là, je fais une crise, moi. Je dis au type qui s'occupait de la promotion, c'était son dossier, mais c'était moi qui payais pour ça. Mm-hmm. J'ai dit, tu leur dis que s'ils veulent pas annoncer mon spectacle, je leur demande pas de faire de la promotion. Je veux rien de gratuit, je paye pour, là. OK? S'ils veulent pas, moi, je le sors dans les autres journaux qui me censurent, qui veulent pas faire ça.
Ouais.
Alors, finalement, ils l'ont annoncé, le show.
OK. Il y a un album aussi que tu as fait en 1975, c'était...
Migration?
Oui, c'est ça, ouais. Pour parler de, justement, le deuil que tu vivais de,
ouais,
de ta première conjointe, c'est ouais, ça?
Oui, oui, oui.
Ta première femme.
Oui.
Ça, je pense en plus, c'est l'album qui a été le plus vendu,
oui,
celui-là.
Oui, 50 000 copies qu'on m'a dit, mm-hmm, qu'on m'a dit. J'ai jamais pu vérifier les chiffres, mais c'est ce qu'on m'a dit.
Puis, ça a été comment d'écrire un album en deuil de même?
Libérateur. Tu peux pas savoir à quel point. Mm-hmm. Tu sais, les gens aujourd'hui, quand il arrive quelque chose dans leur vie, ils courent tout de suite chez le psychologue. On pourrait raconter à un mur ce qui nous arrive, puis ça nous ferait beaucoup de bien aussi.
Mm-hmm.
J'irais pas jusqu'à dire que autant que d'en parler avec un psychologue, là, parce que je connais pas assez la psychologie pour ça. Mais je sais que si on pouvait le dire à un mur, ça nous ferait du bien.
Ben, des fois, on a juste peur de se faire juger.
Oui,
aussi,
quand ça va pas, puis tu donnes un coup de pied dans une canne en métal, puis que ça fait du bruit, ça fait-tu du bien, ça?
Mm-hmm.
Alors, se libérer de quelque chose qu'on a en dedans de soi. Tu sais, les Juifs, là, quand ils perdent quelqu'un, quand quelqu'un s'éteint, quand quelqu'un décède, ils se réunissent tous ensemble et ils en parlent. Il parle de ça. Il parle de cette personne-là, de ce qu'elle a fait dans sa vie, ses mauvais coups, ses bons coups. Il rit, il pleure, il parle. Il s'exprime. Ils expriment leurs émotions.
Mm-hmm.
Et c'est ce que j'ai fait à travers ce disque-là. Et pourquoi il a eu autant de succès? Un, ça a frappé beaucoup de monde d'apprendre que mon épouse décède au moment où j'ai un enfant qui a 16 mois. Tu peux,
ah,
pas,
ouais.
Ouais, tu peux pas rester insensible à ça, d'une part. D'autre part...
Excuse, mais elle, oui, est décédée de quoi? C'est...
Ils l'ont jamais trouvé. J'ai fait faire des analyses et tout ça, puis jamais trouvé. Puis, jamais.
C'est une maladie?
Ça a fait les mêmes symptômes que la maladie du légionnaire. T'as une montée de fièvre et puis...
Ah, ouais.
Ouais. Jamais trouvé. Écoute, puis c'est pas parce qu'on n'a rien fait, là. Pas parce qu'elle est passée par 3 hôpitaux. Charlemagne, Hôtel Dieu. Puis là, à l'Hôtel Dieu, il lui donnait 80%, je pense. Il me semble que c'est 80% d'oxygène. Ça passait pas aux poumons. Puis là, ils m'ont dit, après tant d'heures comme ça, les poumons vont... On les brûle, les poumons.
Ah.
Fait qu'ils ont dit... Puis là, il y a un gars qui était là qui m'a dit, un pneumologue, c'était pas celui en chef, un plus jeune, qui m'a dit, ben à Québec, il y a une machine qui a jamais été utilisée sur un être humain, mais sur certains animaux, on prend le sang dans le corps, on le passe pour l'oxygéner dans une machine et il retourne. Et ils l'ont transporté à Québec, là, en pompant de l'oxygène pour pas y envoyer... En tout cas, ils ont fait ça. Et elle était là, je sais pas, attends un peu, c'était au mois de mars, elle est décédée le 2 avril. Tempête de neige du 2 avril. Pas capable d'amener la dépouille mortelle en Estrie.
Ah, oh, ça, c'est les dernières grosses tempêtes d'hiver.
Oui, monsieur, elle est arrivée le vendredi soir, la dépouille mortelle est arrivée. Dans le cercueil que j'avais acheté à Sherbrooke, elle a été mise dans le cercueil le vendredi soir, puis à 11h le lendemain matin, c'était le service funèbre.
Mmh.
Ouais.
Mais fait que toi, tu devais être dévasté quand t'as écrit cet album-là.
Ben oui. Écoute, moi j'étais à Saint-Raymond-de-Portneuf et je reçois 5 minutes avant mon spectacle parce que j'étais en tournée. Moi, je voulais annuler ma tournée. Puis ma femme, quand je suis allé à l'hôpital Charlemagne, j'ai dit, je vais annuler la tournée. Elle m'a dit non. Toi, tu continues ta tournée. Mmh. Continue ta tournée. Je suis en bonne main ici. Je suis à l'hôpital.
Puis ça, c'était-tu ta première femme qui s'occupait de travailler ça?
Exactement.
C'est ça, c'est ça, c'est
oui,
elle.
Oui, oui,
fait qu'elle travaillait avec toi sur le show, l'éclairage,
Oui, tout ça.
Fait que c'est pour ça qu'elle appelait pas que tu...
Elle voulait que je continue ma tournée. Alors, je suis parti en tournée. Je me rappelle, j'ai chanté dans le bout de Robertval. J'ai chanté dans ce coin-là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. Et en revenant, je chantais à Saint-Raymond-de-Portneuf. Et là, on reçoit 5 minutes avant le show, je reçois un appel. C'est sa sœur qui m'appelle pour me dire qu'elle est dans le coma. D'un coup sec. Et là, mon chef d'orchestre me dit, on annule le show. Je dis, non, on n'annule pas le show. On est à 5 minutes du début du show. Les gens sont dans la salle. Elle est à l'hôpital. Elle est dans le coma. Quand même, je serai là à côté d'elle. Ça ne va rien changer. Le spectacle dure 1h30. Je fais le show. Je pars avec... un des, entre guillemets, roadie, et il va m'amener à l'hôpital.
Mm-hmm.
Ce qu'il a fait, il m'a amené à l'hôpital. Et je devais faire le Grand Théâtre de Québec quelques jours après, puis j'ai appelé Guy Latraverse, puis j'ai dit, Guy, ma femme est dans le coma, il dit, on annule Québec. Et on a annulé Québec.
Mm-hmm.
Mais après les funérailles, moins de semaine après, j'étais sur scène. Il y a un médecin qui m'avait dit, pendant qu'elle était malade, il y a assez d'une personne malade dans ta famille. Va travailler. On s'en occupe de ta femme. Puis le corps médical qui était là, c'était à l'hôpital de l'Université Laval, à Québec, là. Ils ont vraiment travaillé pour la sauver. Mais vraiment. Et même eux autres. Et quand il y en a un des médecins, quand il a appris là, que... à leur filet entre les mains qu'elle était en train de mourir. Il t'a sacré un de ses coups de pied dans une poubelle. Lui, il était révolté. Tout le monde était révolté.
Mm.
Et, ouais, moi... tu sais, on dit que quand on passe à travers une épreuve, on sort grandi ou plus fort d'une épreuve.
Mm-hmm.
Moi, je dis le contraire. Moi, je dis qu'on a à l'intérieur de soi, des forces insoupçonnées, chacun de nous, qui nous permettent de traverser une épreuve. Mais moi, je suis pas sorti plus fort de cette épreuve, c'est pas vrai. Toute l'assurance que j'avais avant, j'en ai perdu une grande partie. Perdre la personne qui t'accompagne dans ta vie depuis un bon moment, c'est perdre la moitié de toi-même.
Ouais.
Tu sais, parce que ça fait une unité, ça, un couple, quand ça marche. Il y en a un qui lève les pattes, Tu marches juste sur une patte, toi.
C'est hein? ça, surtout quand vous avez une belle complicité, oui. puis vous oui. êtes vraiment une, oui. une équipe, tout ça. Moi, tu sais, je viens de rencontrer ma blonde, fait 2 ans, là, oui. puis... Hey, je pourrais pas m'imaginer de la perdre, là, tu sais. Ah, ouais. Ça me ferait autant mal que quand j'ai perdu ma mère, là, tu sais.
Uh-huh.
Mais tu disais que... Comment que tu as écrit « Printemps noir » ?
Ah oui, ça, « Printemps noir », il était à l'hôpital quand j'ai commencé. Je téléphonais, je demeurais à Saint-Lambert, juste sur la rive sud, et je téléphonais tous les matins et à tous les soirs à l'hôpital. Et un matin, on me dit « Hey, apprends du mieux. » Ah là, j'étais content. Et je rappelle le soir, elle est en train de nous filer entre les doigts. Ah là, là, je suis en maudit.
Tabarnak,
OK,
fait que c'est les deux pôles.
Tabarnak, comme tu dis, effectivement. Ouais. Et moi, je joue pas de piano. Puis là, je parle au téléphone à côté. J'ai un piano chez nous pour quand je répète avec mon chef d'orchestre, il y a un piano qui est là. Mm-hmm. Je m'assois, puis je fais... Clac! Je mets mes deux mains sur les...
Les notes.
Oui, du piano, puis ça donne un accord, puis je fais un saut de côté. Je sais pas ce que je joue. Puis là, je commence la chanson. Je commence la chanson, puis tout ce que je fais, je descends mes basses. Alors, sur la main gauche, je descends comme ça, puis je suis avec l'autre ici, puis ça donne, je sais pas, 3 ou 4 accords, je sais pas trop. Puis là, je fais une petite montée pour revenir à l'accord premier, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la chanson.
Mm-hmm.
Que j'ai commencé à l'écrire, ouais.
Ah ouais.
Ben oui, puis on est au printemps. C'est pour ça que je dis dans cette chanson-là, mais l'hiver s'entête à rester au fond de toi.
Mm-hmm.
Mais c'est une belle chanson, mais c'est triste. Tu sais que j'ai réécouté il y a un petit bout de temps certaines chansons de cet album-là. Comme Lettre à une immigrante, j'adore cette chanson-là qu'on trouve sur l'album, c'est folk. C'est dylanien, je trouve. Ça fait un peu Bob Dylan comme style de musique. Mais là, je vais modifier l'arrangement dernièrement. J'aime mieux ça. C'est moins braillard,
okay.
mais c'est aussi émotif.
OK.
Ouais.
Ça ne perd pas l'émotion.
Non, pas du tout.
C'est ça, je te parlais de quand tu avais décidé d'arrêter, parce que, dans le fond, tu étais au sommet, tu sais, tu étais dans ton pic, tu sais, ça marchait au...
Pas tout à fait.
Non?
Non, parce que quand j'ai décidé d'écrire le village de Nathalie, on était en plein disco, dance music au Québec, puis on vivait à peu près ce qu'on vit actuellement. C'est difficile pour l'industrie de la chanson ou de la musique ici au Québec actuellement, okay. francophone, OK? On vivait ça. Tout ce qui était dance marchait, mais le reste marchait. Moi, j'étais pas dance, moi.
Mm-hmm.
Puis quand même, j'aurais fait du dance. J'aurais pas fait de succès.
Mais non.
C'était pas moi, c'était ouais, pas ma personnalité, puis les gens y auraient pas cru. Tu sais, si c'était moi qui avais enregistré Monsieur le Robot au lieu de Simon Deslutins qui avait 16 ans à l'époque, il n'y a personne qui l'aurait acheté, cette chanson-là.
Mm-hmm.
C'était fait pour des jeunes, et puis je l'ai donné à des jeunes, puis c'était pour des jeunes que je l'avais écrit.
Mm-hmm.
Alors, j'avais déjà demandé à Raymond Paquin, dont je t'ai parlé tout à l'heure, puis qui est un habitibien, gérant des colocs. C'est bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi, si j'arrêtais de chanter Raymond? Il m'avait dit « Écrit pour les enfants ». Puis ça, j'avais demandé ça une couple d'années auparavant, puis ça m'était resté dans la tête.
Mais c'est-tu parce que t'avais plus le goût de chanter, ça te parlait plus?
Ouais, ou... ça marchait pas à mon goût. On chantait sur des fardiers dans différents festivals. Quand on arrivait dans des salles, il y avait pas de monde. Puis j'étais pas le seul comme ça, là. Mmh. Tu comprends? Moi, arriver quelque part, puis chanter dans une charrette à foin, devant un public en plein air, puis c'est gratuit. Penses-tu qu'ils vont payer après pour aller te voir dans une salle ou des trucs comme ça? Non, j'aimais pas comment ça fonctionnait. J'aimais pas ça.
Fait que puis tu sentais que c'est quoi ton temps y est arrivé ou...
Je me demandais comment j'allais gagner ma vie, moi. Mm-hmm. Si ça marche pas là, comment ça peut marcher mieux plus tard, que je me disais. Mm-hmm. Puis c'était une période à traverser. Je l'ai traversée, la période, avec le village de Nathalie, mais là, le village de Nathalie, là, j'ai écrit au moins une centaine de chansons là-dedans, moi, pendant tout ce temps, pendant les 3 années du village. Pas juste, je participais à la scénarisation, je participais au dialogue, on travaillait à deux là-dessus. Là.
Mm-hmm.
Et en ce qui concerne les chansons, si tu regardes les crédits qu'il y a pour les chansons, c'est toujours écrit « Désiel Michel ». Ève Désiel et Jacques Michel, on était comme L'entente qu'on avait, c'était comme Lennon-McCartney. C'est moitié-moitié. Qui a écrit quoi? Ça n'a pas d'importance. Ça part de notre équipe à nous. Il y a des fois que c'était Eve qui avait écrit la chanson au complet toute seule, puis il y a des fois où c'était moi. Puis il y a des fois le scénario, j'en avais écrit plus long qu'elle, puis bon, on ne tenait pas compte de ça. C'était moitié-moitié. Puis, puis après que ça a été fait, je ne suis pas revenu à la chanson. Là, voilà.
Est-ce que ça a marqué ton ego? Ça t'a-tu blessé? Ça...
C'est jamais plaisant pour qui que ce soit de voir que les assistances à tes spectacles diminuent.
Mais non, tabarnak, c'est sûr.
Tu comprends?
Mais oui.
Puis là, tu commences à t'apercevoir que tu chantes plus dans les mêmes salles qu'avant. Mm-hmm. Ceux qui t'engagent, c'est dans des formules plus cabaret. C'est revenu à la mode, les formules cabaret, là. Mais, mais tu sais, à l'époque, c'était pas ça, là. Mm-hmm. On chantait dans des auditoriums, dans des polyvalentes, dans des cégeps, dans des salles de spectacle. Des, hein? Bon, ça, moi, quand j'ai voulu faire carrière, là, mon objectif premier, c'était de chanter à la Casa Loma. C'était la salle la plus chic à Montréal, ça, à l'époque. J'ai chanté à la Casa Loma. Puis après, ça a été la Comédie canadienne, le théâtre du Nouveau Monde aujourd'hui. J'ai chanté là. Et puis après, ça a été la Place des Arts. J'ai chanté là. Puis là, ça s'est mis à rétrograder. Tu sais, oui, des auditoriums à Chicoutimi, à Sherbrooke et tout ça, mais à un moment donné, tu te retrouves dans tel petit cabaret à Rouyn, tel petit truc, telle boîte. Je me disais, je suis pas chansonnier, là, moi. Quand je parle de chansonnier, je parle de ceux qui reprennent nos chansons, puis qui animent des animateurs de foule. Je suis bien content qu'il y en ait des chansonniers. Eux autres qui gardent Salut Léon encore, c'est encore la chanson qui marche le plus dans mon répertoire. Salut Léon, c'est les chansonniers qui continuent de garder cette chanson-là populaire.
Fait que c'est ça. Fait que là, c'était venu un peu t'atteindre, puis c'est là que t'as décidé... Ouais, puis là, t'as décidé aussi de partir en voilier.
Ouais.
Là, t'en allais en voilier.
Ouais.
Fait que tu t'es promené en voilier pendant un méchant bout.
Oui.
Puis là, m'amener, c'est quoi, je pense, en 2014-2015, t'as commencé à...
Oui.
Je pense que t'étais en Abitibi, puis t'as remonté sur scène avec des amis ou...
Ouais. Il m'est arrivé, je pense que j'ai été chanceux dans ma vie. Comme je te disais, j'ai acheté une propriété à North Hatley, puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu pour l'acheter. OK. Puis il voulait tellement l'acheter, puis je voulais tellement pas la vendre, que j'ai fait une bonne affaire.
Mm-hmm.
Puis j'avais consulté mon père, puis mon père m'avait dit, Jacques, un fou comme ça, t'en rencontres un dans ta vie, pas deux. Là, je pense qu'au montant que vous êtes rendu, tu devrais vendre.
Ouais.
Tant, jamais personne ne va t'offrir ce qu'il t'offre. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner sur toi. C'est toi le gagnant. Dis oui, c'est tout. Ce que j'ai fait, ça a assuré en grande partie mon avenir. Ça m'a permis de changer de bateau, d'avoir un bateau plus grand. Okay, j'avais un 26 pieds au début, là j'ai eu un 32 pieds. Avec mon 26 pieds, je serais allé partout pareil, je l'avais vraiment dans la tête. Mais avec le 32 pieds, à un moment donné, j'ai décidé de partir. J'ai beaucoup voyagé avec mon bateau, mais j'étais pas sur mon bateau 12 mois par année, là, si tu veux. OK, il y a des saisons pour naviguer, puis il y a des saisons où il faut que tu t'occupes de ton terrain chez vous, ou de je sais pas quoi, moi, il y a toujours plein de choses à faire. Mais avec le métier que je faisais, comme quand j'écrivais pour les enfants, moi, je me levais... au mouillage dans les Bahamas, par exemple, je mouillais l'angle quelque part, je me levais le matin à 6 heures, je me faisais un café, je m'assoyais avec mon crayon et mon papier, et je commençais à écrire pour sur la rue Tabaga. À 11h30 midi, moi, j'arrêtais tout. Le reste de la journée, c'était pour moi, c'était pas pour l'écriture. Et j'ai fait ça pendant une couple d'années, je pense, 2-3 ans. Et puis, après, est arrivé Star Academy. Star Academy, ça aussi, ça a fait des entrées d'argent avec les redevances. Oui, tu comprends?
C'est ça,
alors là, j'ai changé de bateau.
C'est ça, fait qu'ils ont pris une de tes chansons.
Ah, ben, ils en ont pris deux. Ils ont pris Amène-toi chez nous. D'abord, c'est Wilfred Le Boutillier qui a gagné avec cette chanson-là.
Mm-hmm.
Et l'année suivante, ils ont dit, est-ce qu'on peut prendre Un nouveau jour va se lever comme chanson thème? J'étais à Porto Rico. Porto Rico a le même système téléphonique qu'aux États-Unis, puis qu'ici, pour les téléphones cellulaires. OK? Je suis sur mon bateau, mon téléphone sonne. Mais là, je fais le saut, je me dis, mais comment ça se fait qu'on téléphone sonne? Qui m'appelle? Puis là, j'étais là sans ma femme actuelle? Je réponds, c'est Julie Snyder. Jacques, c'est Julie? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi? Serais-tu d'accord pour qu'on prenne ta chanson « Un nouveau jour va se lever » comme chanson thème pour... Je dis, c'est sûr que je serais d'accord. Je voyais déjà Échec rentrer pour l'autre chanson.
Ben ouais.
Et pas rien que ça, c'est que ça allait réanimer encore une autre
ben ouais, de mes œuvres.
Ben
oui,
ben c'est ça, exactement. Bon, mais j'ai dit oui. Il m'a dit, il y a une condition. J'ai dit laquelle? Elle a dit, il faut que tu arrives ici hier. Je suis à l'ancre. Dans un mouillage, je suis même pas dans une marina, il n'y a pas de marina où je suis. C'est ça où ils ne font pas la toune.
Mm-hmm.
Je ferme mon bateau, je prends ma petite annexe, puis je rame jusqu'au bord, puis j'accroche ça avec un cordage après un poteau qui est là, puis je pars, je loue un petit avion de l'endroit où je suis. C'est à Culebra que j'étais à Porto Rico, si ma mémoire est bonne, et je m'en vais à San Juan, où est l'aéroport. Et là, je prends un vol pour m'en venir ici. Je suis retardé à Chicago. Je suis arrivé ici à la dernière minute. Et finalement, ça s'est fait. Je suis reparti 3-4 jours après, je pense.
C'est quoi? Pourquoi fallait que tu sois là tôt de même?
C'est parce qu'il allait ouvrir le show. Et puis, il voulait que je sois là aussi pour l'ouverture du show et que je chante un nouveau jour avec les concurrents.
OK.
Ouais, ouais.
OK, fait que c'était ça, le deal.
Ouais, ouais. Ouais. Et Pierre-Carl Pelado était content, maudit que je sois là. Et il y a quelqu'un qui avait demandé est-ce que je change le texte, une phrase ou deux dans ma chanson. Puis Pierre-Carl Pelado avait dit il n'y en est pas question.
Ah ouais?
Ah oui, oui. C'est un indépendantiste, lui. C'est
ben
sûr,
oui.
Hein? Puis,
ouais. Ah ouais, c'est ça.
Ouais,
pour ça, je suis content.
Ouais. Ouais, oui, oui. Alors moi, j'étais bien content aussi que...
Un milliardaire indépendantiste, ouais. J'aime bien ça.
Puis je suis à la veille de me la fermer parce que, à l'âge que j'ai pas envie de me faire traiter de vieux Chris à un moment donné, OK? Et à l'âge que j'ai, je suis encore assez conscient pour savoir que chaque génération livre ses propres batailles. Qu'elle remporte ses propres victoires, qu'elle subit ses propres défaites, et que ce faisant, elle crée un nouveau monde, le sien. Moi, je l'ai fait. Maintenant, c'est aux plus jeunes de le faire. Et je ne vais pas me mettre à critiquer le monde qu'ils sont en train de construire et dans lequel ils vont vivre, ainsi que leurs enfants après. J'ai fait mon bout de chemin, j'ai réalisé des choses, j'ai fait mes erreurs, comme tout le monde, et ils vont faire la même chose. Mm-hmm. Et ainsi va la vie, qui disait.
Ouais.
Ouais. Et puis, voilà. Et puis, bon, le vieillissement, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, hein?
Ouais.
Oui, c'est qu'on sait que ça ne dure pas. Ça fait que je me console avec ça.
Ah ouais? Si tu pars, tu vas partir en paix?
Ah ben oui, oui. Je vais te dire un truc, j'ai pas de regrets.
Mm-hmm.
J'ai quelques remords, mais j'ai pas de regrets, ma vie est bien remplie. J'ai mangé quelques claques sur la gueule dans ma vie, mais ma vie a jamais été plate.
Mm-hmm.
Et quand t'as fait ce que t'as envie de faire dans la vie, quand t'as réalisé une bonne partie de ce que tu désirais, j'ai pas réalisé tout ce que je désirais réaliser, mais quand t'as réussi ça, tu ne peux pas te révolter quand ça arrive à l'âge que j'ai. Si ça arrive à l'âge que ma femme avait, quand elle est décédée, oui, tu peux te révolter.
Ouais.
Mais pas à l'âge que j'ai maintenant. J'ai 82 ans. Alors, il va bien falloir que je lève les pattes à un moment donné. Mais, sais-tu ce que je me dis? Si la mort n'arrive pas assez vite, je vais aller la chercher, je pense.
Bon,
non, mais sais-tu pourquoi? Je veux pas mourir malade, je veux mourir avant, moi.
Non, ouais, c'est
oui,
ça.
Comme bien du monde, je pense. Là. Mourir malade, ça me tente pas. Me retrouver dans un CHSLD non plus, ça me tente pas du tout.
Tu vas aller t'acheter un gros paquet d'héroïne.
Oh non, pas de l'héroïne.
M'a mourir heureux.
Non, ouais, j'ai des bonnes armes à feu. Il y a plein de façons de mourir. On a juste arrêté de manger et de boire.
Hey, c'est vraiment, ça a été un bon podcast. Merci beaucoup, Jacques Michel. Je trouve que ça termine sur une belle note. pareil.
Hey, ben c'est moi qui te remercie, puis j'espère que tu fais du montage, puis que tu vas couper à quelques endroits, parce que j'ai une grande gueule, je parle beaucoup.
Hey, ça a été super
merci
apprécié.
À toi.
Merci beaucoup.
C'est un très grand plaisir.
Je te laisse le dernier mot de la fin. Y a-tu de quoi que t'aimerais dire? Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger?
J'ai rien plugué. Il y a une chose que j'aimerais dire à ceux qui peuvent encore m'entendre et à ceux qui ne m'entendront plus jamais. Merci beaucoup pour ce que vous m'avez apporté d'aide dans ma carrière. Merci beaucoup de m'avoir soutenu quand il n'y avait pas grand monde qui croyait en moi. Mmh. À ces gens-là, je parlais tout à l'heure de Maurice Dubois, je parlais de Roger de Vaudreuil, je parlais d'Yvan Dufresne. Ça pourrait être des gens que je côtoyais qui n'avaient rien à voir dans le showbiz, mais qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, qui m'ont conseillé. Mm-hmm. Merci.
Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Yes. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen.
Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.